102.1.
100% parlé tout l'été.
Salut, salut tout le monde. 10h02, on commence 2 minutes en retard. C'est parfait. Parfait pourquoi? Ben parce que vous avez eu le temps de vous installer confortablement avant le point de Max. Comme vous pouvez l'entendre, ce n'est point Max qui est là. Oh.
Il va falloir trouver un autre nom pour l'émission, là, de temps que Max revienne.
Mais il nous reste cette émission-ci et deux autres.
Ouais, c'est ça, exact.
Il semble qu'on est loin.
Fait qu'il nous reste trois émissions pour trouver un nom avant que Max revienne.
Ça vaut-tu vraiment la peine, rendu là, de faire un brainstorm? OK, peut-être avec les auditeurs là, pour s'amuser, parce que moi, en ce moment, dans ma tête, je suis rendu là au niveau d'énergie. J'entends juste ça. Il y a un petit quelque chose aujourd'hui là, qui m'accroche, la température, le moral. Pour vrai, j'entends ça à répétition.
Mais là, il y a deux possibilités, parce que c'est quand même énergique. Fait que soit que t'as de l'énergie ou soit que t'es tellement fatigué que tu t'en viens sur le bord de la folie. c'est quelle des deux options, Pascal?
Non, mais avoue, avec la température, là!
C'est vrai qu'il fait beau.
C'est sûr que j'ai une petite folie naturelle, là. Si tu me connais bien depuis toujours, ça vient avec, il faut faire avec. Ça se tasse pas sur le côté. Puis avec une journée comme on a, oui, il y a de l'actualité, mais il y en a peu, contrairement à d'habitude. Puis en plus, ben l'été a décidé de nous donner 3 jours. Hey! Chanceux! Mais pour vrai, méchante belle journée sur Québec. Là. En ce moment, c'est du soleil bord en bord. Bon, du votre côté de maison jusqu'à l'autre côté de maison, c'est 23 degrés. J'ai pas de nuages pour vous, mes chanceux. 29, c'est le maximum. Avec l'humidex, on monte à 35. Journée piscine, journée café glacé, journée... ce que vous voulez. Ce que vous voulez, mais estival. Barbecue, on part ça ce soir. On fait en sorte que ça sente partout dans la ville de Québec. La viande grillée, les récoltes de nos agriculteurs, le maïs. Allez vous en chercher. On est dedans. On est en pleine saison. Mettez du beurre en masse, du sel. Vous voyez, c'est ça mon énergie, moi, aujourd'hui. On est dans quelque chose de bien fun. Mathias, t'as l'air à pas être là-dedans. Toi, t'es...
Mais non, hein, non, au contraire. C'est que j'ai pas la même folie que toi, Pascal, puis j'ai pas eu à me réveiller à 3 heures du matin.
Ouais, là, c'est...
Ça explique peut-être des choses aussi.
Mais je sais pas s'il y a quelqu'un comme moi à l'écoute, quand je suis fatiguée, j'ai de l'énergie. Moi, j'appelle ça de la fausse énergie, là. Je suis vraiment là-dedans en ce moment. Mais c'est le fun. On dirait que c'est énergisant. Là, attention, là, à 13h tantôt,
c'est
à
ça.
14h.
Après l'émission.
Mais il y a tout le temps un genre de regain de fausse énergie. C'est comme quand tout va mal, moi, je ris. C'est mes systèmes de défense,
ouais,
on dirait.
Mais j'ai l'impression que c'est une affaire féminin, ça.
Quoi?
Ben,
vas-y.
Bon, ouais. On n'embarque pas. Non, non, on n'embarque pas dans des insultes. C'est que ma blonde, c'est la même chose. Quand elle est sur le point d'être fatiguée, mettons qu'on arrive le soir, moi, quand je suis fatigué, là, je suis down, c'est relax, ça se passe rien.
Un low pace au quotidien.
Ouais, c'est ça, de base. Oui. Mais ma blonde, elle, quand elle est fatiguée, elle est hyper énervée, puis là, tout bouge vite, puis là, mon Dieu, puis là, elle rit, puis elle se trouve drôle. Fait que ça fait comme vraiment un gros contraste. Quand on est soir dans le lit, puis qu'on est vraiment fatigué des deux après une grosse journée, elle rit, elle arrête pas de me faire des jokes, elle arrête pas de me taquiner, puis tout, puis moi, je suis juste genre, je suis mort, là. Laisse-moi
Il y a rien qui sort. En même temps, te connaissant, t'es tellement bon vivant. Tu sais, tantôt, tu me voyais, je dansais, j'avais du fun, je faisais de la préparation, t'étais juste l'autre côté de la table. C'est ça, t'es bon vivant.
Tu as rendu que tu m'imites aussi, Pascal, là, tu t'es joint à la parade.
J'ai le meilleur coach, Nathan Meilleur, qui va venir à l'émission parce qu'on l'a demandé pour 10h30. On veut qu'il vienne faire un tour. Les gens réclament Nathan Meilleur, alors vous aurez du meilleur. Quelqu'un dit, moi j'appelle ça la batterie de secours avec mes 4 enfants. 4 enfants, waouh, quelle belle tablée, chanceux. Là, vous dites, ouais, mais t'aurais pu te l'offrir aussi. Je pense plus à 32, là. Sinon, faut que je commence maintenant, puis j'arrête jamais.
faudrait que ce soit efficace, mettons, sur une couple d'années.
Mais je fonctionne sur batterie à énergie solaire, puis pauvre vous, mesdames et messieurs, c'est du soleil à Québec aujourd'hui, fait qu'on y va comme ça. Et on a une belle programmation aujourd'hui dans le point de Max ou le point sans génie. Quelqu'un a proposé ça comme nom quand Max est là, c'est ça, je crois? OK, parfait. Vous pouvez... rectifier si jamais. Mais je pense pas que Max sera content avec ça. Max, qui est à Val-d'Or en ce moment, il a pris une petite bouffée d'air du côté du Nord pour revenir en toute fraîcheur dès la semaine prochaine. Mais Arnaud Cordier va venir nous voir, programmateur chez Bleu Feu. On va parler de Saint-Roch XP en fin de semaine. Il y a une programmation fort intéressante, puis il est tout le temps le fun à avoir ici en onde, Arnaud Cordier. Je sais pas si c'est remis du Festival d'été de Québec, parce que pour Bleu Feu, ben, c'est aussi une gang du Festival d'été de Québec. On va jaser à Benoît Caron sur un sujet un petit peu plus sérieux quand même. Aussi, il est directeur du réseau de coopération des entreprises en économie sociale et en soutien à domicile. Moi, les noms longs de même. Tout ça pour dire que le gars est un expert pour la santé, puis on va parler de soutien à domicile. Il y a Québec qui élargit ses projets vitrines à 9 régions, donc des projets qui vont permettre de rester plus longtemps à la maison, puis aussi de prendre soin des gens qu'on aime. Fred, qui nous salue, qui dit « Nous reste que 12 heures de Pascal CV sur les ondes de Boulevard 102.1. » Rectification?
14 heures.
Ben, moins 8 minutes.
Oui, c'est ça que j'allais dire. Maintenant, 13h53. Mais un peu plus que 12 heures quand même.
Quelqu'un qui dit « Même affaire pour moi et ma blonde le soir, que l'on parle d'énergie, là, je suis KO, raide, puis elle a un solide regain d'énergie. Ça clash, mais c'est vraiment drôle. » Tu sais, des fois, le bonheur, c'est dans les petites choses. Puis, cet temps-ci, j'ai des conversations avec des gens autour de moi qui, peut-être, ont moins de laisser aller sur des choses qui peuvent être émotionnellement prenantes ou... tu sais, t'as ta relation là, avec ta blonde, OK?
Oui.
C'est sûr qu'elle a des défauts, c'est sûr t'en as.
Ah, 100%. Là, elle a des défauts, moi, je suis parfait.
Ah oui, et ça, c'est ton défaut. Penser que t'es parfait, je te l'apprends tout de suite si tu le savais pas. Je t'en ai au moins trouvé un. Des fois, la vision des choses. On a tous des moments où on est plus faible, on est plus sensible, on est plus... Puis je vais utiliser le terme bébé, hein, juvénile dans nos comportements, dans nos réactions. Puis moi, je réfléchis toujours à c'est quoi les intentions derrière? Peu importe tes relations, peu importe ce qui se passe dans ta vie, quelles sont les intentions derrière? Puis ça peut même être sur une bad luck là, quotidienne. T'as une bad luck dans ta journée. Est-ce que les intentions derrière, c'était quelqu'un a mené quelque chose de méchant contre toi? Est-ce que c'était prévu? C'était-tu intentionnel? Non, bien, Colin, t'as eu un accrochage. Tout le monde est correct? Tout le monde est correct. C'est du matériel? C'est du matériel. Ouais, mais l'inflation, je sais. Vraiment tough. Mais c'est quoi les intentions derrière? Est-ce qu'on te voulait du mal? Non? Parfait. Même affaire relationnellement. Vous avez une chicane, puis là, vous m'écoutez, puis vous dites « Ah, moi, c'est ancien que ma blonde, c'est tough, tu sais. » C'est quoi les intentions derrière? Êtes-vous ensemble par mauvaise intention? Non? Mais pourquoi vous ramenez pas les bonnes intentions? Pourquoi, quand il se passe quelque chose, vous êtes pas liés, que c'est plutôt ennemi? Tu sais, il y a personne qui a rien à gagner dans une relation. Vous devriez ensemble travailler. Pas un contre l'autre.
Non, c'est ça.
Puis, je reviens toujours avec ce mot-là qui est intention. Puis, ça permet de faire avec, tu sais, quelqu'un qui s'exprime mal sur ses émotions ou d'avoir plus de patience, d'avoir plus de laisser-aller, de plus pardonner la communication qui est peut-être pas très bonne. Parce que quand tu te dis, hey, à la personne, elle veut-tu du mal devant moi? Est-ce qu'elle veut me blesser vraiment? Est-ce qu'elle veut vraiment mal? La réponse, souvent, c'est non. Mais qu'est-ce que tu peux faire, toi? Mets de l'amour. Mettre de l'amour dans la relation. Mettre, hey, tu files pas, hein? T'es marabout aujourd'hui, hein? Ça peut faire suer, ça peut faire des jours que la personne n'est pas endurable, c'est pas le fun. Mais plus tu mets d'amour, plus t'en récoltes.
Puis se poser la question pour l'autre, je trouve ça intéressant, mais se poser la question pour soi-même. Tu sais, on en parlait en début d'émission, puis on a, ma foi, une horaire chargée, moi et toi, Pascal, depuis le début de l'été. Puis je commence à le sentir cette semaine. Je me fâche pour pas grand-chose.
C'est vrai, on en parlait lundi hors d'onde. On faisait la programmation, puis j'ai dit, hey, t'es-tu fatigué, Matt? Puis t'as dit, ouais, puis ça se répercute sur mon couple.
Oui, ben c'est pas sur mon couple nécessairement. C'est juste que j'arrive à la maison, puis là, je fais une tâche toute simple. Je m'en vais faire... J'ai un exemple vraiment anodin qui m'est arrivé avant-hier. Puis c'est comme là que j'ai frappé mon mur à me dire, OK, là, va falloir que je me gère, puis que je trouve un moyen de retomber dans une routine qui me permet d'être un peu plus sain dans mon esprit. Mm-hmm. J'ai fait à manger tout. Puis là,
Oui, parce que c'est toi qui cuisines à la maison.
Oh, oui, oui. Hey, un vrai...
T'as pas des grandes recettes, mais tu
non,
cuisines.
Non, non, hey, c'est très bon, ma nourriture, que la nourriture que je fais, tu sauras, Pascal.
Je suis certaine que ta viande sautée, ton riz et ta canne de petits pois ouverts, c'est super.
Non, non, pas des petits pois en canne, des vrais légumes que je fais moi-même. Hey, pour un jeune homme de 22 ans, là, c'est déjà quand même pas pire.
Je l'ai toujours dit.
Puis, je faisais quelque chose d'anodin après avoir mangé, rentrer le poulet dans un plat pour le mettre au frigidaire. Et j'avais pas beaucoup de plats dans mon armoire parce qu'on s'en venait, on s'en vient à court un peu. J'arrive pour rentrer le poulet dans le plat, puis le plat veut pas fermer. Mais je regarde mes autres plats, puis il y a soit un plat vraiment trop gros pour la quantité de poulet que j'ai, ou soit un plat trop petit.
Fait qu'il faut que ça rentre dans celui que
t'as. Faut que ça rentre dans celui-là. Puis là, ça rentre pas. Mais je me désorganise. Puis quand je dis je désorganise, je sac...
Ce qui est hors de toi. Ah ouais. Tu sais, c'est pas toi au quotidien.
Non, c'est vraiment pas. Je deviens hors de moi. Puis là, ma blonde... Puis là, je fais comme juste quitter la situation. Ma blonde finit par réussir à fermer le plat puis le ranger. Puis j'ai comme eu un 2 minutes. Je suis comme, là, faut que je prenne le temps de me poser puis de me dire qu'est-ce qui est arrivé. Mm-hmm. Comme tu as dit, c'était quoi mes intentions derrière ça? Qu'est-ce qui a poussé vers ça?
Puis, tu as été capable d'avoir un regard sur toi. Il est essentiel. Il n'est pas toujours facile. T'sais, dans une période où tu manques de sommeil, que tu es un peu à bout de tes ressources, quoi que ce soit, ou tu as une grosse année, puis là, ça s'accumule. Il y a un moment où tu n'es pas parfait dans tes réactions. D'abord, je te lève mon chapeau, Matt, parce que c'est extrêmement difficile de se regarder dans le miroir. Mais au moment où tu l'exerces puis tu apprends à le faire, ça devient facile. Ça devient quelque chose qui est beaucoup plus un réflexe. Puis, j'ai confiance en tout le monde qui écoute en ce moment d'avoir une possibilité de le faire à un moment donné. Ça change une vie. L'introspection change une vie parce qu'il y a l'expression qui dit « Demande pas à ton pays ce qu'il peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. » Ça, là, c'est toute ma vie quelque chose que j'ai entendu, ainsi que « Patience et douceur valent mieux que force et rage. » Okay?
C'est bien dit,
c'est,
ça.
C'est deux mantras familiaux qu'on nous a répétés et répétés et répétés, puis je pense que c'est un beau cadeau du ciel parce que c'était pas facile. Puis c'est bien plus facile de dire « Ouais, mais je réagis demain parce que, regarde, je suis fatiguée. Puis je réagis demain parce que, regarde, tu me parles mal ou je réagis... » Bon, OK, parfait. Mais ta réaction, là, c'est toi qui as contrôle.
Puis elle est exagérée. Puis je m'étais excusé à ma blonde. Puis tu vois, hier soir, j'ai eu d'autres situations que ça s'est moins bien passé. Puis là, j'ai dit « Mathias, tu vas te gérer. » Puis je reviens sur ce que tu as dit par rapport aux intentions de l'autre dans le couple. Mm-hmm. Ma blonde, quand elle m'a vu agir comme ça, elle sait que mes intentions n'étaient pas mauvaises. Elle sait que c'était pas envers elle que j'étais fâché non
oui,
plus.
Oui, mais elle aurait pu faire « Hey, sérieux, Matt, calme-toi une heure. »
Puis ça aurait été correct.
Ça aurait été correct parce que ça vient de toi. Mais elle a eu cette vision-là de « Oh, mon amour, t'es fatigué. »
Oui, oui. Puis là, elle s'est occupée du plat. Hier soir, devine, je suis arrivé à la maison puis elle était allée faire quelle commission?
Acheter des Tupperware.
Elle sort d'un sac.
T'as duré.
Une bonne vingtaine de plats. En me disant,
je l'aime.
Garde, on va plus avoir ce problème-là.
Je l'aime.
De pas avoir de plats.
Je vous aime.
Non, mais quel beau geste pour vrai. Mais moi, j'ai fait un tardant en pétant une coche après un Tupperware lundi soir. Puis je me fais féliciter. Puis je veux pas dire féliciter, là. Mais ma blonde, elle se dit, hey,
Comment
je peux l'aider? Je vais acheter des nouveaux plats.
Sauf que je crois, Matt, puis tu sais, on commencera pas à en faire une discussion de 20 minutes, mais ça me ferait plaisir d'en faire une discussion de 20 minutes. Je crois, Matt, que vous vous êtes auto-aidé là-dedans.
Mm-hmm.
Toi, tu es désorganisé parce que ton style de vie en ce moment, ton mode de vie est plus exigeant, OK? Fine. Tu t'es regardé, puis t'as fait « Ouais, c'est pas fort. » Elle t'a regardé, puis elle a pas fait comme « Ah, oh, tout le temps fâché ce temps-ci, tout le temps gossain, tout le temps... » C'est pas ça qui s'est passé. Elle t'a regardé, puis elle a fait « Ah, t'es fatiguée ce temps-ci, mon amour. » Puis elle s'est mise à réfléchir à comment je peux l'aider. Ben je vais aller dépenser 30$ de Tupperware. Puis quand je vais y montrer, il va rire. Puis ça va tellement désamorcer la situation. Dans un contexte où on n'a pas d'enfants, on n'a pas de... Tu sais, que c'est juste...
Ouais, c'est ça, c'est plus simple qu'avec une vie familiale au complet. Là.
C'est plus facile, je pense... avoir ces réflexes-là, mais une fois que tu les développes, ils sont acquis puis ils restent. Fait que si je peux laisser ça dans les airs aujourd'hui, dans cette superbe journée d'été du mois d'août, le 5 août qui nous offre quelque chose d'exceptionnel à profiter aujourd'hui, ça va être ça. Regardons-nous plus, puis aidons-nous là-dedans. Parce que souvent, quand tu accumules, puis tu es fâché, puis il y a une ambiance plate à la maison, rapidement, on va mettre ça sur le dos de l'autre. Non, non, ramenons ça à nous. Puis comment est-ce qu'on peut aider l'autre? Puis c'est là où je pense que l'amour renaît, refleurit. Tu sais, une fleur, tu l'arroses, tu l'arraches pas, tu la secoues pas, si tu veux qu'elle pousse puis qu'elle soit belle. puis qu'elle sente bon. C'est un peu ça. Fait que moi, je vous félicite pour un jeune couple de 22 ans d'avoir ces réflexes-là. Puis Mathias, pète ta coche tant que tu veux dans l'émission. Je suis là pour absorber tes humeurs négatives parce que moi, j'ai une valve extra-positive aujourd'hui.
Aujourd'hui, Pascal est tout sourire.
Je suis tout sourire. Par contre, dans l'actualité, il y a bien des choses à mentionner. Et ce n'est pas nécessairement rose. On arrive à la veille d'une campagne électorale. Il y en a qui se prononcent. Il y a eu des débats hier, entre autres, pour chute de la chaudière. Et les électeurs qui devront voir si les candidats qu'on offre dans ce secteur-là leur ressemblent et vont avec leurs opinions de la vie en général. Je dis ça parce que Dominique Dumas du Parti conservateur a fait beaucoup réagir, puis même a divisé un peu à l'intérieur de son parti, parce qu'Éric Duhem m'a dit « Hey Dominique Dumas, si toi tu as des façons de voir différentes que la ligne de parti, ben va falloir que tu te rallies au parti si tu veux continuer en politique avec nous. » Fait qu'il y a des gens qui se sont tenus là-dedans, et ça commence à brasser un peu, là. Pas brasser négativement, mais brasser la soupe de la politique des élections qui s'en viennent. Et depuis hier, en fait, on est dans ce genre de contexte-là.
Oui, Dominique Dumas, justement, qui avait comme... Puis par le passé, c'est comme des tweets qui ont ressorti.
Ouais.
Avait dit vouloir encadrer l'avortement au Canada, donc les avortements tardifs qu'on parlait surtout. Puis hier, dans une mêlée de presse, il a affirmé qu'il s'était pas lancé pour ça en politique. Il a dit il y aurait des débats à avoir là-dessus en parlant de l'avortement, mais ce n'est pas la place ici pour le faire. Et Éric Duhem, par la suite, a recadré tout en disant au Parti conservateur du Québec, on est pro-choix et ce n'est pas une option.
On a fait le tour sur la question ce matin, entre autres avec Marc-André Leclerc, là, qui est analyste politique, a travaillé aux côtés de Stephen Harper au fédéral il y a fort, fort pas si lointain. Puis on a essayé de séparer la question. Tu sais, en politique, là, est-ce que tu dois te présenter avec tout ton passé et l'assumer? Ou tu peux effacer une partie de ton passé en disant « ben moi, je ne vais plus dans cette ligne-là ». 88-971-1021, on vous laisse répondre à la question si vous n'étiez pas là ce matin. Comment vous voyez les choses? Pour quel genre de candidat vous allez voter aux prochaines élections? C'est quoi votre vision d'un candidat? Ça, j'aimerais vraiment ça que vous répondiez. 88-971-1021, c'est quoi votre vision d'un bon candidat en 2026 en politique?
Un homme de 29 ans vient d'être arrêté en lien avec le meurtre de Nicolas Audet à Saint-Isidore en 2022. Ça vous ravive peut-être des souvenirs. Là. Il y a 4 ans, Nicolas Audet avait été retrouvé mort dans sa demeure en Beauce. Quelques semaines après le meurtre qualifié de violent, son ex-conjointe qui s'était sauvée avec leur enfant de 18 mois, à elle et Nicolas, du côté de l'Ontario, avec un complice. Elle avait finalement été retrouvée 2 jours plus tard. Et ce fameux complice était Étienne Gourde, l'homme qu'on a arrêté aujourd'hui, 4 ans plus tard. Il est présentement accusé du meurtre au premier degré de Nicolas Audet en 2022. À noter que l'ex-conjointe de Nicolas Audet est décédée dans un accident de voiture en 2023, ce qui vient compliquer la cause parce qu'elle aurait été un témoin clé dans cette affaire. Un homme dans la soixantaine est décédé hier soir à Saint-Raymond. L'homme a été écrasé sous son propre véhicule alors qu'il effectuait des travaux. Un enquêteur s'est déplacé sur les lieux pour déterminer les circonstances exactes de l'événement. Et je termine en sport. Tout d'abord, le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui tient une réunion de crise au Maroc avec les hauts dirigeants de l'organisation présentement, les hauts dirigeants de la FIFA, en a très peu de détails, mais ça, c'est probablement en lien avec toute la saga qu'il y avait eu avec la FIFA, qu'on voulait ouvrir à des investisseurs étrangers, d'extérieur qui allait gérer en quelque sorte l'organisation. Ça avait fait beaucoup de bruit et plusieurs départs au sein de l'organisation également. Et on a eu l'Omnium Banque Nationale qui s'est poursuivi hier. Malheureusement, 2 défaites par forfait de nos Canadiens, Gabriel Diallo et Denis Shapovalov. Aujourd'hui, on a Félix Auger-Aliassime qui est en action. Normalement, le match qui devrait se dérouler vers 19h, mais on sait au tennis, des fois, il y a un peu de décalage.
C'est le seul Québécois qui reste dans le tournoi.
Exactement.
Il y a des gens qui peuvent encore mettre la main sur des billets au moment où l'on se parle. On dirait qu'il y a un petit peu moins de spectateurs cette année. Il y a eu des matchs bon, assez pleins, mais le fait qu'il y ait des billets comme ça disponibles peut-être va vous faire monter à Montréal ou vous faire un aller-retour, justement, ou un week-end un petit peu plus long. Mais tout porte à croire que les gens ont moins de budget. Là, on est à la fin de l'été. Les vacances sont passées, ça a coûté cher, on se dirige vers l'école. La liste des effets scolaires, vous pensez avoir à mettre combien cette année là-dedans? C'est encore les mêmes sujets, hein, mais avec l'inflation, il y en a qui réussissent à s'en sortir un peu moins bien que l'année passée. Et on revient dans, j'allais dire, on en jase, le point de Max à Boulevard 101, on en jase, c'est à partir de midi. Le point de Dans le point de Max, en Max, Mathias, il y a de la circulation.
Oui, à commencer sur la rive sud, 20 ouest, entre Taniata, président Kennedy, toujours au ralenti. Au même moment, Guillaume Couture, direction ouest, à hauteur de chemin du fleuve. En raison de travaux dans le secteur, c'est très difficile également. Je vous transporte sur la rive nord maintenant. Henri IV, direction sud, à hauteur de Charest. Ralentissement dans le secteur, même chose. Henri IV, mais cette fois-ci en direction nord, à hauteur de chemin Sainte-Foy. Et je termine avec Laurentienne, direction sud, un peu d'attente pour rentrer sur Capitale. Puis, encore une fois, pour une deuxième journée consécutive, probablement la belle météo. Pour se diriger vers Saint-Gabriel de Valcartier, donc le village Vacances-Valcartier.
C'est le village Vacances-Valcartier qui cause le trouble.
Un ralentissement monstre.
Encore?
Là. Encore une fois.
Pire
là,
qu'hier.
C'est encore pire qu'hier, pour de vrai. De Saint-Gabriel de Valcartier jusqu'à rue Lepire. Sur le boulevard Valcartier, c'est bloqué complètement. Donc, si jamais vous vous dirigez pour une belle journée en famille, armez-vous de patience.
Armez-vous de patience, de sandwich, de bouteilles d'eau et d'air climatisé. C'est pas mal ce qu'on va vous conseiller. Et j'oublie la crème solaire. Hein? Crème solaire.
Très important.
Très important. Celui que vous venez d'entendre, c'est Mathias Turcotte. C'est mon co-animateur depuis quelques semaines déjà. On a fait une bonne partie de l'été ensemble. Ça se finit vendredi. Mon nom est Pascal CV. Puis je vous remercie pour vos beaux messages en passant. Je les lis. Là, c'est un petit peu rapide des fois de pouvoir vous répondre dans les blocs publicitaires. On accueille nos invités, on jase un peu de la nouvelle, de ce qui s'en vient à l'émission. Mais je lis des très beaux messages, c'est le fun de partager cette intimité-là, soit votre quotidien avec vous. C'est un privilège. Et on reçoit justement quelqu'un qui vient d'entrer en studio. Il est allé se reposer entre le Festival d'été de Québec et ce qui s'en vient pour la suite de l'été ici dans la ville et pour son année. C'est Arnaud Cordier, programmateur principal chez Bleu Feu, qui est en studio. Salut Arnaud.
Salut tout le monde.
On te recevait il y a quelques semaines, peut-être une semaine et demie, deux, puis tu disais, je m'en vais dans un chalet, il faut que je mette la switch à off après le festival.
Exactement,
de Québec.
Ouais.
T'es rechargé, là.
Ah
là,
je suis rechargé, écoute, des super vacances, j'ai frappé un ours sur la route, c'était magnifique.
T'as frappé un ours?
Oh, oui, c'est...
Comme Karianne Bourassa, là.
Oui, en plus petit, il est quand même plus petit, fait que, tu sais, dans Ville-et-Baleine, on s'est reposé. Bref, on arrive ici, puis je suis vraiment reposé et d'attaque. D'attaque pour Saint-Roch, en fait.
Saint-Roch XP.
Saint-Roch XP, oui.
Ça fait quelques années que vous voulez mettre ça sur la map, que ça fonctionne.
Ça fonctionne, oui.
Il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés. On travaille très fort pour colmater. Mais une chose qui revient tout le temps, c'est la programmation.
Oui, en fait, c'est ça. Si tu veux, c'est la 9e édition. C'est un festival, hein, je veux dire, avant toute chose. Festival urbain, effectivement, parce que c'est ancré en ville, c'est ancré en basse ville, en fait. On vient dynamiser, en fait, tout cet espace qui est la rue Saint-Joseph, de la rue du Pont jusqu'à Saint-Anselme, donc ça fait quand même presque un kilomètre finalement, et on l'anime principalement avec de la musique. Cette musique-là, c'est de la relève principalement, c'est de la relève qui vient du Québec, des provinces maritimes, de Toronto, de New York, d'Europe, France, Belgique. Et puis on a vraiment voulu, tu sais, moi j'étais là à la première édition, donc je faisais, je sais pas moi, une vingtaine de groupes, 4 lieux, c'était un peu en mode bricolage quand même.
C'était expérimental.
On essayait des choses parce que nous, on était impressionnés par quelque chose avec Louis, qui est le directeur artistique et du contenu. C'est qu'on allait chaque année à South by Southwest, qui est un gros festival de découverte aux États-Unis, au Texas. Et puis, on voyait des shows un peu partout, dans la rue, dans des garages, dans des arrière-cours. Et on s'est dit, mais pourquoi on n'essayait pas de faire quelque chose, évidemment, à l'échelle de Québec, donc beaucoup plus petit nécessairement, avec du talent local. À la base, c'était juste des groupes de Québec. Et puis là, on a complètement éclaté ça au fil des années et on s'est retrouvé maintenant avec environ entre 130 et 140 spectacles sur 3 jours.
Un peu partout. Il y en a peut-être qui sont éphémères, il y en a qui sont planifiés, il y en a qui sont dans une cour de resto, il y en a d'autres qui sont une scène.
C'est absolument génial parce qu'en fait, si tu veux, c'est entre 130 et 140 spectacles, c'est gratuit, je le répète.
Surtout ça. Hein.
Les groupes vont jouer minimum 2 fois, donc si vous le ratez à son premier passage, vous le rattrapez un peu plus tard dans la soirée. Ça se concentre donc sur le jeudi, le vendredi, le samedi. Le jeudi, ça commence vers les 17h. Le samedi, ça commence sur le coup d'environ 13h aussi. Et c'est tout au long de la soirée, jusque 22h, 22h15, quelque chose comme ça. On va rajouter en plus aussi une billetterie, c'est-à-dire qu'on a l'Impérial. Donc à l'Impérial, on a les spectacles d'humour le vendredi avec le Gang Show, donc le vendredi 28. Et on a le retour de quand même de Cœur de Pirate aussi le samedi, toujours à l'Impérial. Ça, c'est une billetterie à part. On va rajouter encore plusieurs couches à ça. On va rajouter nécessairement au Grizzly Fuzz une programmation purement électronique à partir de 21h30 les trois soirs.
Et quelle belle scène,
oui.
Le Grizzly Fuzz. C'est très intime.
Pour la musique électro, c'est fou, puisque en plus, parfois, on fait ça en mode boiler room aussi. Ce qui fait que finalement, les gens se rassemblent autour du bout du DJ qui se trouve au milieu de la salle. On a des super noms. Ça va de la house à la techno, à de l'ambiant. On est là aussi pour danser. Tout ça, encore une fois, c'est gratuit, je le répète. Et puis, mais quand je te dis qu'on rajoute chaque année, tu sais, c'est un événement, c'est un festival qui évolue avec son temps, mais qui évolue aussi au gré des lieux que nous pouvons avoir. Donc, on a une quinzaine de lieux. Il y a toujours un tiers des lieux qui changent parce qu'il y a des locaux qui se libèrent, des locaux qui ne se libèrent pas, au contraire, et tant mieux pour la vitalité de la base ville. Donc, si tu veux, on investit des lieux qui sont à la base vides ou alors à habiter différemment.
Mais je voudrais en nommer quelques-uns.
Oui, vas-y. Puis moi, après ça, j'ai donné mes deux coups de cœur.
Avec bonheur. Parce que là, Saint-Roch XP, vous dites OK, wow, mais c'est-tu en fin de semaine? J'avais d'autres choses de prévues. Puis moi, en début, j'étais comme ça. Je pense que c'est en fin de semaine. Non,
non.
27 au 29 août. Donc là,
ouais.
On est le 5. Vous avez le temps de mettre ça à votre agenda. Et dans les lieux, les vitrines là, du festival,
ouais.
C'est autant des salles de spectacle, tu l'as dit, l'Ampli de Québec, on a la bibliothèque Gabriel Roy, on a le motel Acadie, le parvis des jardins de l'église,
ouais.
Saint-Roch, la plage Jacques-Cartier, la rue Saint-Anselme au complet. Mais il y a aussi bar, café, resto qui participent. Ça, pour moi, je trouve que c'est très Saint-Roch, c'est la vitalité de tout le monde.
Oui.
Le bar, le Vox, le Bati-Bassac, le café Péco, la Corrigane, la place boutique gourmande aussi qui embarque, puis des commerces. Donc, l'ancien local Benjo qui
oui.
s'est libéré. Bleu Feu est là aussi. Le marché Tradition, courtement, je Barry qui
c'est
est là.
Ça, c'est ça, il faut qu'on en parle après. Là.
C'est ça ton
ouais,
cœur?
Non, mais c'est parce que c'est absolument génial. Si tu veux, il est là depuis donc, le marché Tradition qui est à côté de l'Impérial. Je pense que c'est le lieu qui reste le plus longtemps avec les lieux extérieurs, qui est là depuis l'année 1. On va mettre un groupe au fond de l'allée où il se trouvent les produits bio. Les gens vont faire leurs courses, aller chercher leur panne de lait, leur boîte de thon. Ils passent à travers les gens qui vont écouter la musique, récupèrent ça, finalement s'arrêtent et regardent. C'est vraiment absolument génial. Il fait un peu froid, vous mettez un hoodie. Puis, mais c'est génial, en fait. Et les groupes jouent le jeu de se retrouver dans des lieux complètement un peu dérisoires parfois,
oui.
Un peu fous. Tu vois, dans nos bureaux de Bleu Feu, c'est pas dans les bureaux vraiment, c'est en fait dans le sous-sol. Et là, tu rentres, t'es comme dans une alcôve un peu noire comme ça, et les groupes commencent à jouer et le son est parfait en plus. Donc, on
tu
essaie...
peux en sortir, aller dans la rue
oui,
qui est animée.
C'est ça, en fait. Tu vois, tu fais ton programme, je le répète, c'est gratuit encore une fois. Donc, tu fais ton programme, tu peux franchement te taper, je sais pas, une dizaine de groupes par jour, si tu veux. Il y a vraiment de la découverte, c'est vraiment éclaté. Quand on dit la découverte, ça va de l'électronique au folk, en passant par la chanson, par le rock, le post-punk, la pop, bien évidemment. Donc, c'est vraiment très éclaté. Puis, je pense qu'on a créé une habitude de curiosité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour nous, en tant que programmateurs, ça devient aussi un laboratoire pour découvrir des groupes aussi, pour essayer de faire développer, de construire des histoires, si tu veux. Julian est une des histoires de Saint-Roch XP qu'on a fait jouer il y a 2 ans, qui s'est retrouvée l'année suivante en ouverture de la soirée de Benson Boone sur les plaines d'Abraham. Donc, on essaye de suivre les groupes pour essayer de les faire grandir, de trouver une certaine synergie pour les mettre dans nos salles, pour les mettre dans nos événements, dans nos festivals. Ça sert à ça et ça sert aussi, évidemment, à se faire voir par des professionnels. On aura quelques professionnels qui vont se pointer aussi le nez pour voir un petit peu de quel bois se chauffe ce festival Saint-Roch XP. Et puis, on a aussi une programmation jeunesse avec le Petit XP. Ça va se passer à la bibliothèque Gabriel Roy le samedi 29. Ça va être gratuit, ça va être sur inscription. Ça va sortir bientôt, je pense, autour du 10-11 août, vous pourrez vous inscrire.
Là, on parle de programmation jeunesse.
Programmation jeunesse avec
c'est
monsieur...
C'est-tu des gens qui n'ont jamais fait de scène, genre
non.
On passe d'Arthur l'aventurier à Robert qui veut percer dans le monde
non,
de
non,
la
Non, non, du tout,
jeunesse.
En fait. Si tu veux, c'est vraiment des spectacles qui vont jouer dans différents festivals au Québec, que ce soit à Sherbrooke, à Montréal,
ouais.
Ou même ici dans la région de Québec. On a Monsieur Gazon, qui est plus au niveau du cirque, si tu veux. Et puis, Alix Atomix, qui vient vulgariser un petit peu la science.
Oh,
c'est
super.
Des gens qui sont professionnels. Et évidemment, c'est des spectacles que, logiquement, vous verriez peut-être en payant. Là, encore une fois, c'est gratuit.
C'est gratuit, mais sur inscription.
Sur inscription. Et puis, on a aussi les ateliers dégustation, toujours à la bibliothèque Gabriel Roy. On aura notamment Samuel Boisvert, qui est le vainqueur, qui est le gagnant en fait de MasterChef saison 3. Ça, c'est... Là, on aura la buvette Mia aussi. Et puis Olivier Graton, qui est un influenceur et créateur aussi culinaire de Montréal. Donc, on a trois ateliers, toujours sur inscription, Bibliothèque Gabriel Roy, jeudi, vendredi, samedi. Et on vient rajouter une petite cerise sur le gâteau, une cerise en forme de bonbon du Nouveau-Brunswick, en tout cas de l'Acadie, parce qu'on a la maison de l'Acadie qui vient s'installer chez nous. On va avoir 8 groupes de l'Acadie qui viennent investir ces différents lieux, dont le motel Acadie, qui est un lieu spécifique pour eux. Il y aura de la bouffe acadienne aussi avec le Kilted Chef. Donc, on rajoute beaucoup de choses autour de ce squelette qui est d'abord la musique avant toute chose. Évidemment, on aura les commerces de la rue Saint-Joseph qui viendront proposer aussi, on va dire, sur des stands, leur bouffe finalement, avec des bouchées pas chères.
Des stands éphémères où on réduit le menu, où on essaie des choses. Pour aussi, c'est une belle expérimentation dans la rue de dire, OK, exactement. Bon, pour un menu, 5 $, nous, on vous vend ça, puis vous mangez une bouchée comme ça en marchant.
Exactement.
Et en plus de tout... cette expérience-là, ça reste qu'il y a quand même l'aspect découverte d'artistes qui ressort à fond. Je sais que ça va être difficile, mais mettons deux, trois artistes que ça vaudrait vraiment la peine d'aller découvrir, d'aller voir dans la programmation.
Écoute, c'est un peu déchirant. T'sais, en même temps, tu sais que quand on est parent et quand mettons, on a plusieurs enfants, moi j'en ai un, donc ça va, il y en a toujours un préféré. Puis à chaque fois, je dis ça à des parents, ils me disent « Mais non !» Après ça, ils me regardent en faisant un clonage. C'est vrai qu'il y en a un qui est préféré. C'est un peu difficile. Ceci dit, je veux quand même souligner, par exemple, Eleonore Dessureau. Ça, c'est une jeune qui vient de débuter. T'es avec Bravo, c'est une super agence. Elle tourne avec Gabouchard sur scène. Elle a son projet solo. Suivez ça parce qu'on va dans la lignée d'Élisandre, un peu Ariane Roy, un peu Lou Adriane. Donc ça, c'est à suivre. Éléonore Dussureau, c'est certain. Je m'en voudrais aussi de ne pas souligner un groupe qui vient de New York, complètement éclaté, qui s'appelle Balaclava.
Vous les avez connus en
voyage? On fait des recherches. On va voir à gauche, à droite, qu'est-ce qui se passe aussi sur la planète musique. Évidemment, c'est un format où on veut développer des jeunes. Donc, on ne va pas aller voir des gros spectacles, admettons, à Montréal ou même ici dans des grandes salles en billetterie. Il y a Vinci qui fait de la musique électronique analogique, qui vient de Québec, qui est aussi génial. Donc, si vous voulez, le but dans tout ça, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre tous les genres et qui pourrait plaire aussi au grand nombre. Donc, quand je le dis qu'il y a de la chanson, il y a de la chanson. Si vous voulez du rock, il va en avoir aussi à mort. Ça, c'est clair. On a Murray Drive aussi de Toronto qui fait une sorte de folk américaine absolument sublime. Si vous aimez les Mumford & Sons et le reste, vous risquez d'aimer Murray Drive. Donc, on y va vraiment. C'est un peu difficile, j'avoue, parce que on a quand même environ 60 spectacles.
Mais moi, je trouve que la beauté de Saint Rock XP, c'est même pas de se faire conseiller, c'est de marcher d'endroit en endroit.
Oui. Ouais, en fait, tu sais quoi, tu te laisses porter, exact. Tu prends un petit verre, tu prends une petite bouchée, tu te
avec
promènes.
Avec des gens que t'aimes.
Ouais, exactement. Tu peux rentrer généralement dans tous les commerces avec ta boisson parce qu'on y met des permis, bien évidemment. Donc, et puis la vibe, tu sais, moi, c'est bête, ça paraît pas, hein, c'est un Rock XP, mais on attire, évidemment, la température va jouer énormément sur l'achalandage, mais on a des chiffres à la fin d'un 3 jours qui dépassent largement certains festivals dans la région. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, on le répète, hein, l'été, ça ne se termine pas au 15 août. Vraiment pas, en fait. On est là aussi pour venir un petit peu valoriser cette fin d'été où la lumière est différente, où la vibe est différente. On est avant la rentrée scolaire. On a quand même envie d'avoir du fun une dernière fois.
On a un retour au travail, mais on a envie d'extensionner un peu les choses. D'avoir de la musique puis un Saint-Rock qui est animé. Merci beaucoup, Arnaud Cordier.
Ben, merci à vous. Franchement, venez nous voir 27, 28, 29 août.
Avec plaisir. Arnaud Cordier, tu es programmateur principal chez Bleu Feu et on te souhaite une superbe année parce qu'on sait que vous travaillez sans arrêt pour toute la suite.
Puis bonnes vacances à tout le monde.
Bonnes vacances, oui. À tout le monde qui en profite aujourd'hui avec la belle température. Le point de match. Superbe température qui amène en studio des invités qu'on ne croyait pas possible à avoir. Vraiment, on a visé gros, on a demandé, on a réussi. Un horaire chargé, une personne en demande, un homme populaire. Puis moi, je suis très contente de l'accueillir en studio. Très difficile. Très, très difficile de mettre la main dessus, Mathias. Et puis, il s'ajoute...
Il était loin.
Ah! Il s'ajoute à notre duo. Donc, Mathias Turcotte, Pascal Cévé qui vous accompagne jusqu'à midi. Merci énormément à cet homme présidentiel et chevelu frisé d'être avec nous pour ce prochain segment. Salut Nathan Meilleur.
Bien le bonjour.
Écoute, on te demandait, les gens criaient Nathan, où est Nathan, où est notre meilleur? Ben là, t'es là.
Ben oui, vous avez réussi, bravo. Non, mais c'est que je suis, comment dirais-je?
T'sais, évaporé, moi, je dirais,
oui.
En partant.
Ben, je suis en train, là, tranquillement, pas vite, de me... tu sais, quand Thanos, il claque des doigts, là, dans le film des Avengers, là, puis que les gens partent en...
Oui.
J'ai comme l'impression, là, que ma tête est en train de partir tranquillement comme ça.
Ou t'as un détraqueur d'Harry Potter qui est en train de prendre ton âme, là.
Il est en train de me siphonner. C'est que si vous faites un peu de course à pied, vous allez me comprendre, là. Il y a cette espèce de mur, cette espèce de barrière mentale. Puis c'est spécial, ça, parce que tu pars sortir, tu sais, tu fais une sortie un matin, 5 km, rendu au 4e km, t'as hâte que ça finisse. Puis on dirait que ton corps, tu sais, mentalement, tu le sais, fait que ton corps le sait, puis il réagit en conséquence. Mais si le lendemain, tu sors courir un 10, rendu au 4e, 5e km, ça va bien, là. Tu vas te rendre jusqu'au 10. Puis là, ben c'est ça, moi, mon espèce de marathon. Oui, j'avais eu une semaine de vacances un peu plus tôt dans l'été, mais là, mon marathon estival se complète cette semaine. On
ton
est mercredi, et hey, là, mon corps le sent. Puis, faut que je parle à mon corps, là, de...
On lâche pas.
Flanche pas, puis
tiens
genre,
bon.
Pogner une sinusite la semaine. Ça, c'est mon genre, là, tu sais, de tomber en vacances, puis de tomber malade,
et
puis d'avoir de quoi.
Combien
de
gens nous écoutent qui vivent avec ça quand tu pousses toute l'année, tu tombes en vacances, et là, je vais pouvoir me reposer, avoir du fun, tu sais, pas regarder les heures, puis là, tombe malade, même en été. Il y a une genre de grippe qui court en ce moment, en plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a aussi la gastro-fulgurante, là, le déversement qui empêche les gens d'acheter de la laitue, là,
ben
qui
oui,
provient du
ça aussi. On a vu ça passer ce matin, ça affecte, c'est ça, même les producteurs locaux aussi, d'ici, mais tu sais, c'est normal d'avoir une petite crainte. Puis je pense que c'est ça l'enjeu, en fait, c'est ça. Tu as mis le doigt dessus, tu sais, c'est nos vacances. Fait qu'on veut pas être malade en vacances, donc tu prends pas de chance de manger, malheureusement, même si ça nuit à des agriculteurs d'ici, puis c'est bien plate. T'sais. Mais c'est un peu la même affaire en voyage. Tout dépendamment où tu vas faire un tout compris, des fois, il y a des gens qui, pendant cette semaine-là, vont dire, regarde, je vais avoir un petit peu plus faim que d'habitude, mais je veux pas gâcher mes vacances. Fait que je prendrai pas de chance ou... je sais pas, je vais me bourrer d'imodium dès le départ.
Que tu peux faire avant, après.
Oui, c'est ça.
Mais là, on avait ça, puis on te souhaite pas ça pour ta semaine de vacances qui s'en vient, Nathan. Hey, on te volait un peu parce qu'on avait le goût de faire un sujet avec toi suite à un article qui est sorti. Ça me fait penser à une série qui est sortie auparavant, puis basée sur une histoire vraie et tout ça. Mais on est tout le temps un peu omnibulé par les tueurs en série.
Ouais.
Par les gens qui commettent des crimes qui sont crapuleux, qui sont vraiment hors de notre imaginaire. Puis on se dit, y a-t-il un profil lié à ces gens-là? Parce que tu veux essayer de trouver un point commun. Mais après des décennies face aux tueurs en série, il y a une ancienne agente du FBI qui a identifié un point commun. Elle s'appelle Candice DeLong. Puis elle a interrogé des dizaines de meurtriers au cours de sa carrière. Ça devait être assez spécial.
Okay.
Il y a déjà un gars qui l'avait fait, un psychologue, il y a quelques années. On en a fait une série. Là. Moi, je suis sûre que les gens savent de quoi je parle.
Oui.
Mais on estime qu'il y a un trait psychologique qui distingue systématiquement les criminels les plus dangereux. Et c'est l'absence de culpabilité.
Ça, c'est étonnant.
Vite de même, là, c'est léger. Là. Tu t'attends à un comportement agressif et impulsif comme point commun. Tu t'attends à quelqu'un qui a le regard méchant, qui voit la vie comme étant une persécution.
Ouais.
Tu t'attends à ça. Pas nécessairement quelqu'un qui a une absence de culpabilité parce que vite comme ça, ça paraît assez simple.
Ben, c'est parce qu'on on parle de ça. T'sais, tu m'expliques ça puis c'est comme si tu me disais... C'est comme si on comparait ça aux gens qui n'ont pas le vertige. Eux autres, ils n'ont pas le vertige dans la vie. Ils n'ont pas ça. Eux autres, ils n'ont pas la...
Ça
la...
n'existe pas.
C'est ça. La pièce de la culpabilité n'est pas dans le modèle.
Ouais.
Elle n'est pas là. T'sais.
Oui. Puis cette femme-là a soigné même des patients à l'hôpital universitaire de Northwestern Chicago. Puis un jour, il y a un agent du FBI qui est venu à une de ses conférences puis qui a demandé à la femme d'intégrer le FBI puis ça a mené à, bon, ces études-là. Mais moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, OK, l'absence de culpabilité. Je m'attendais à plus. Puis au début d'émission, Mathias et moi, on jasait sur, tu sais, cette fatigue là qu'on a accumulé en vous accompagnant, pas parce qu'on n'aime pas ça, mais parce que les horaires sont là. Et ça nous amenait des fois à être un peu déréglés au niveau émotionnel ou dans la patience aussi ou ça, puis t'en parlais, toi, tu faisais le matin il y a une semaine, puis tu disais, Colin, hey, je suis à pic à maison, mais tu te lançais dans la cuisine et tout ça. Si je reviens à ça, sur quel point de caractère, sur quel trait de caractère vous avez statué que vous ne faites pas confiance à quelqu'un ou que vous aimez moins vivre avec ce trait de caractère-là. Puis que pour vous, c'est très difficile d'accepter dans votre entourage d'avoir quelqu'un qui a ce trait de caractère-là et pourquoi. Ça, vous êtes-vous déjà posé la question sur c'est quoi votre limite, là? Hey, moi, quand quelqu'un est comme ça, je décroche, j'ai de la misère, je ne suis pas capable de passer à travers. 88-971-1021. Quel trait... C'est Mindhunter, la série, c'est
vrai. Oui, Mindhunter, c'est ça. Que ça, c'est excellent, en fait, parce que si vous avez jamais écouté cette série-là, parenthèse, vite, vite, ça raconte l'histoire de deux agents du FBI dans les années 70. Puis on est au premier balbutiement d'essayer de comprendre justement ces hommes-là, principalement des hommes, évidemment, qui vont faire plusieurs meurtres avec un modus operandi. Et de là vient le terme tueur en série, finalement. Donc, c'est grâce à ces deux agents-là du FBI qu'on a établi une corrélation puis qu'on a créé cette case-là, finalement.
À faire attention pour telle raison, chez telle personne, selon la jeunesse, selon des événements vécus et tout ça.
Oui, en plein ça.
Mais les traits de caractère... Et...
Ben moi, c'est pas nécessairement un trait en particulier. Mais j'ai comme une case que ces personnes-là m'énervent au plus profond de moi.
OK. Là, c'est une thérapie à deux scènes.
Non,
là,
mais...
Fait tout le monde ensemble.
Les victimes de la société. Tu sais, le monde qui, peu importe la situation, vont revenir du travail. Ils vont s'être chicanés. C'est tout le temps la faute de l'autre. Ouais. Ça n'a pas bien été au travail. C'est tout le temps la faute des autres.
J'ai fait vivre ça, mais parce que tu m'as fait vivre
exact.
Ça. J'ai perdu patience envers toi, puis je t'ai manqué de respect parce que, regarde, tu m'as fait vivre ça.
Puis là, tu leur parles, puis leur vie est donc bien plus difficile que tout le monde. Puis gérer leurs émotions, ben c'est plus difficile que tout le monde. Puis là, faire telle tâche, ben c'est plus difficile que tout le monde à cause de telle affaire. Ce monde-là, ça vient me chercher au plus profond de moi-même.
OK, mais là, clairement, ça vient chercher du monde aussi au 88-971-1021 qui avait besoin de cette petite thérapie à deux cents-là à 10h52 en cette journée d'été. On évacue tout pour être capable de profiter du temps ensoleillé. Quelqu'un qui dit, moi, c'est une personne qui a la mèche courte, hein, tout le temps comme au bout de sa chaise, là, puis c'est tout le temps plus négatif que positif, là. Tu sais... je te donne un exemple, là, t'es en couple, là, t'as acheté la mauvaise salade. T'sais, c'était pas mauvaise, c'était pas bonne. C'était pas, tu sais, c'était tant grave. Là,
un peu plus, ça fait un trou dans le mur à cause que c'est pas la bonne salade.
Le rendu là, c'est agressif, pas juste la mèche.
Là, en plus, c'est ça, ces temps-ci. Quoi, t'as acheté de la salade?
Tu veux tous nous tuer?
Tu veux nous tuer, nous déshydrater, mon dîner d'eux? Pas t'ajoute de salade.
Isabelle qui dit moi c'est la jalousie. Tu vas où, avec qui, tu reviens à quelle heure, au retour, pis ça. Mais pas dans le convivial du couple. Ouais. Elle parle vraiment de la grosse enquête, là. Toujours devoir tout savoir quand tu sais pas toi même où tu t'en allais. Les gens qui ont aucune intelligence émotionnelle, ça sort aussi. Et ceux qui ont pas de conscience pour les autres.
Ah ça, ouais, c'est ça.
Moi ça m'a empêché d'être avec du monde dans la vie.
Ça, c'est ouais.
Pas être capable de se mettre à la place de l'autre.
C'est tous des points, ça. Mais tu sais, tu vois, ça s'enligne un peu vers ça. Moi, je pense que le narcissisme, c'est vraiment quelque chose qui me pue au nez dans la vie.
Ah, ben là, tu dis quelque chose qui est comme quand ton employeur ou ton futur employeur te demande c'est quoi ton défaut, puis tu dis je suis perfectionniste, là.
Tu trouves que c'est trop intense, ma réponse?
Ben, je trouve que c'est sûr que c'est tough à vivre. Mais en même temps, tout le monde a des traits narcissiques, là. Mais à différentes
ouais,
échelles.
Oui, c'est ça, à différents niveaux.
Mais toi,
c'est ça.
OK, donc peut-être préciser, parce que c'est sûr qu'une personne centrée sur elle, là...
Ben, c'est un peu... C'est pour ça que je disais que ça penche un peu vers ce que tu disais, justement, tu sais, des gens qui atteignent un niveau de narcissisme qui fait en sorte qu'ils ne sont plus en mesure de prendre soin des gens autour d'eux. Ou du moins même de ne même de pas être capable de remarquer qu'il y a des gens autour d'eux qui sont plus dans le besoin. Les gens qui vont toujours ramener ça à eux aussi, tu sais. Mm-hmm. Ah oui, mais moi, j'ai fait telle affaire, j'ai fait telle activité. Moi, je suis allé là. Moi, j'ai regardé ça. Moi, j'ai fait ça quand ça t'est arrivé. Puis ces personnes-là, souvent, ont la réponse à tout, tu sais. Tu vas leur raconter justement, c'est une passe plus difficile à la job en ce moment. Puis, oh, moi, je ferais ça, puis je dirais ça au boss, puis je ferais telle affaire. Puis, puis tu sais, c'est drôle parce que tu dis... qu'on est tous un peu narcissiques.
Tout le monde a des traits narcissiques.
Des traits, oui, c'est ça. On n'est pas narcissiques, des traits, t'as raison. C'est important de faire la nuance.
Puis ça nous permet de survivre, là, en passant.
Puis, ben oui, puis t'sais, ça nous arrive, nous, à la radio, parce que c'est sûr que ce qu'on va vous raconter, souvent, c'est nos histoires, c'est nos affaires à nous.
Faut qu'on pense que ça c'est intéressant pour vous les raconter.
Ben, c'est ça. T'sais. En plus de ça, on a ce trait-là, mais là, je pousse ça complètement à l'extrême, mais c'est sûr que des personnage, parce que c'est un personnage, là. Mais tu sais, comme Donald Trump en ce moment, qui est la définition même du narcissisme, c'est exactement ce qu'on vient de décrire. T'sais. Un monsieur qui se fout carrément des autres et de son peuple en ce moment et des autres peuples sur la planète entière. puis on donne le plein pouvoir à ce genre d'individu-là. Fait que c'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me pue au nez.
Quelqu'un qui agit aussi, d'une manière narcissique, là, puis tu le décris très, très bien, qui va avoir une situation devant lui qu'il va avoir créée, mais qui va dire « Ouais, mais vous aviez juste à vous en sortir.
Ouais.
Ça, ça vous appartient.
Ouais. » Qui va quitter, là.
Ouais.
Tu sais, qui va sauver de cette situation-là, qui va être prêt à pousser des collègues, des membres de la famille en dessous de l'autobus parce que excessivement narcissique préfère continuer à s'auto-vouer un culte à lui-même. Ça, je pense que c'est vraiment un trait de personnalité.
Partir sans émotion là-dedans. Oui. Là.
Puis, tu sais, je comprends que ça prend certains traits justement pour notre survie. Ça fait partie de la base. Tu as raison, c'est d'un point de vue psychologique. Mais un peu comme tes tueurs, ben, je dis ça comme si c'était les tiens, mais comme le sujet.
Ma gang de tueurs en série.
Tout ton groupe, Pascal.
Ta clique.
Ceux qui se rassemblent le mardi.
Ouais, c'est ça. Le mardi au parc à 7 heures, puis après ça, à qui on fait mal. Mais ces gens-là dont tu parlais tantôt, tu sais, on soupçonne qu'ils n'ont pas cette pièce-là. C'est correct d'avoir des traits pour la survie, mais tu sais, si on pouvait enlever cette pièce-là de chez les gens. Je pense que le monde irait bien mieux parce que souvent, malheureusement, c'est ce type de personnalité-là, oui, se retrouve souvent au pouvoir parce qu'ils réussissent à tellement être convaincants, même si c'est pas vrai ce qu'ils disent, c'est pas vrai ce qu'ils font.
Oui, les narcissiques, il y a quand même un grand potentiel de charme en l'air de ça.
Ils sont convaincants.
Ils sont convaincants parce qu'ils sont convaincus aussi.
C'est ça.
Puis là, tu as des degrés, mais tu sais, on peut entrer dans le pervers narcissique, là, c'est vraiment un autre level.
Oui.
Bon, on pourrait penser à des gens aussi là, là-dedans, mais c'est vraiment des gens qui sont presque incapables à diagnostiquer parce que jamais ils vont se rendre chez la psychologue.
Ben, c'est ça.
Parce que jamais ils vont penser qu'ils ont ne serait-ce qu'un besoin, ben, aussi minime soit-il.
Ça, j'avais jasé de ça avec ma psychologue, justement, à l'époque. Puis c'est exactement ce qu'elle m'avait dit. Tu sais, les gens narcissiques, là, on parle plus de traits, là, vraiment quelqu'un qui est narcissique et TPL, là, trouble de personnalité limite, c'est exactement ce que tu viens de dire. Excessivement difficile à diagnostiquer parce que souvent, si on réussit à le faire, c'est parce qu'on va être rendu le quatrième, le cinquième, le sixième psychologue qui va avoir répété la même information, donc la même cassette. Et là, la personne va finir par avoir une ouverture par rapport à ça. Mais c'est ça, ces gens-là sortent de là en se disant, puisque la personne vient de dire, ça n'a pas rapport, ça n'a pas de bon sens, elle est complètement hors champ. C'est
elle n'a pas
des
compris
gens...
ce que j'exprimais. Elle n'a pas compris.
C'est ça. Puis tu sais, à un moment donné, quand tu n'es pas capable de comprendre dans la vie que quand tout le monde autour de toi est un problème, ça ne marche pas. Là. C'est toi le problème. Là. Fait que ça, ces gens-là ont ben de la misère à vivre avec ce type de personnalité-là, type de personnalité avec qui j'ai côtoyé des gens comme ça dans mes 39 années de vie. Puis ça finit tout le temps par être des relations toxiques. Ça finit tout le temps de la même façon.
Que l'autre, de toute manière, n'a pas sa place. Là. Moi, je trouve tout le temps qu'il y a un manque d'équilibre là-dedans ou un peu d'abus même à certains niveaux.
Puis quand tu es capable de t'en rendre compte, puis, parce que des fois, c'est tough, t'sais. Des fois, ça prend du courage de mettre fin à ce genre de relation-là, mais faut le faire parce que justement, c'est ça, c'est trop toxique.
Il y a une autre vie.
Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment pas évident. Puis, c'est sûr que vous en avez probablement des gens autour de vous, puis que ce soit des collègues de travail, votre patron, des membres de votre famille, la belle-sœur ou le beau-frère, t'sais. Puis des fois, tu te sens mal de le dire à ton frère ou à ta sœur, t'es-tu rendu compte que ton chum, ta blonde, il est de même, il a tel type de trait. Mais c'est ça, c'est comme important, ces gens-là, de leur répéter qu'il y a ces anguilles-là sous les roches pour qu'ils finissent par ouvrir une petite porte à un moment donné puis que quelqu'un soit capable de poser le diagnostic. Puis eux aussi, il y a une vie après. Là. Ça va juste les aider se faire diagnostiquer. Mais si cette petite pièce-là pouvait disparaître demain matin...
Il y aurait des grands changements.
Colline, que le monde irait bien, me semble. Ouais.
Quelqu'un qui dit les chialeux, surtout qui chialent sans vraiment savoir de quoi ils parlent aussi... pas capable. Quelqu'un qui dit, moi, c'est les personnes prétentieuses. J'aurais même pu mettre un nom en exemple, mais ce serait pas gentil. Puis après ça, il nomme la personne. C'est super. Je pense que je vais aller plus loin.
Oh, wow! C'est-tu quelqu'un qu'on connaît?
Les personnes princesses aussi, c'est sorti. J'ai vraiment fait du déni, là.
Attends.
J'ai pas entendu. Les personnes princesses, c'est un trait de personnalité que quelqu'un n'a aucune... tolérance. On est vraiment en thérapie de groupe. Là.
Oui, oui, mais on se rapproche un peu de ce que tu disais, Mathias, tantôt. T'sais, les personnes qui sont princesses...
Et qui ramènent tout à eux.
Qui, des fois, vont avoir tendance aussi à se victimiser plus facilement. T'sais, on sait bien, c'est à moi que ça arrive. Puis c'est sûr que ça, à un moment donné, ça devient lourd, là, à porter tout ça. Là.
J'ai déjà eu quelqu'un autour de moi, puis ça me fait ça me faisait tellement de peine, mais tellement de peine, là, de voir que la personne a de la misère à accepter qu'elle peut avoir fait de la peine à quelqu'un. OK. Fait que, mettons, toi et moi, on est en relation, Nathan. Puis, regarde, j'ai mal agi.
Mais pis... je suis obligé dans cette relation-là d'aller à ton club du mardi?
Non, les CV Blood Family Mafia, comme dirait Christian.
Ouais, ça, ouais, OK.
Non, non, mais fais attention à toi, par exemple.
Ouais, c'est ça, watch-toi.
Si tu viens pas, fais attention à toi. Mais on est en relation, puis je t'ai fait de la peine. Regarde, j'ai mal agi, ça arrive, on n'est jamais parfait. Puis vient un moment que tu m'en parles.
Ouais.
Puis je suis tellement mal de t'avoir fait mal que je suis pas capable d'affronter ça. Fait que ce que je vais faire, c'est juste être dans le mutisme ou dire « Ouais, mais là, c'est arrivé parce que telle affaire.
Ouais. »
Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais.
Je te parle mal une journée. J'agis mal avec toi une journée. Je boude. J'ai aucune... Tu sais, je m'endure pas, mais je t'endure pas puis je te rejette puis c'est vraiment un dimanche plate, OK?
Ouais.
Toi, tu viens me voir, tu sais, passe... C'était vraiment ordinaire dimanche. J'ai pas filé. Gars, je fais avec. Ouais. Je garde de passer à autre chose. Mais ouais, mais Nathan, moi, dimanche, là, j'étais de même. Parce que vendredi, tu me fais suer.
Ouais.
Puis je m'en suis souvenu. Puis gars, mon quota était atteint.
Parce que t'as acheté de la salade. Vendredi, t'as acheté de la salade.
Gars, pour ça, j'étais ça de même dimanche. Ouais, c'est tout
ça.
Long.
Ça a été ça toute la journée.
Ça, là, j'ai déjà connu quelqu'un comme ça. Puis ça m'a fait vraiment de la peine.
Ben oui.
Puis
parce
ça, c'était en amitié. Puis ça m'avait vraiment. Avec le temps, éloignée de la personne, parce que je me disais, crème, c'était tellement de bonnes personnes, puis elle sent tellement mal de faire mal, mais parce que ça bloque là, je suis plus capable.
Ouais. T'sais, une des plus belles qualités qu'un être humain peut avoir dans la vie, je pense, c'est d'être capable de se remettre en question.
Ouais.
Puis ça, c'est...
Puis d'agir pour changer, pour évoluer. J'aime mieux le mot
c'est
évoluer.
C'est ça, évoluer, parce que c'est pas un processus qui est simple de faire ça. Parce que tu le sais automatiquement, quand tu vas te remettre en question, tu vas trouver des points positifs, mais tu vas trouver des points négatifs aussi. Mais à partir de là, ben là, tu les as notés sur une feuille. Fait que ça devient ta to-do. Puis là, tu sais, après ça, bon...
Le travail à faire.
Quelles ressources je dois aller chercher? Est-ce qu'il faut que j'aille consulter en psychologie? Est-ce qu'il faudrait que j'aille, tu sais...
Des talks avec moi-même?
Oui. C'est ça. Puis tu vois, quand j'étais en onde avec Alex, puis toi, justement, les deux dernières semaines, on en a parlé de ça, le diagnostic de TDAH que j'ai eu au début de l'été dernièrement. Mais ça fait partie de ce processus de remise en question-là. À un moment donné, j'étais tanné que les gens autour de moi me disent « Tu gères mal ton horaire, t'as l'air de tout le temps courir, sans arrêt. » Puis à un moment donné, je l'avais dit aux gens, j'ai arrêté de me dire ça, parce qu'en bout de ligne, est-ce que tout est fait? Oui, tout est fait. OK, bien parfait. Fait que foutez-moi la paix avec ça, je fais juste mon possible. Mais d'être capable de te remettre en question et de faire « Attends un peu, là, il y a beaucoup de gens autour de toi qui te le nomment, ça. »
Je fais mon possible, mais est-ce que je fais les efforts pour que ça soit plus juste mon possible?
Ben c'est ça. Ouais. Fait que est-ce que je fais mon possible comme il faut et là, de te remettre en question pour finalement faire comme « Bon, ben il y a peut-être un TDA ou TDAH, je vais aller chercher le diagnostic, je vais aller voir si... »
Comment je peux m'aider?
Continue à évoluer, exactement comme tu disais tantôt.
Ça, je pense que c'est un des plus beaux services qu'on peut se rendre dans la vie.
Oui.
Merci, Nathan Meyer, d'être passé.
Un grand plaisir.
On t'aime, puis tu reviens quand tu veux. La porte est ouverte.
Bonne fin d'été aux auditeurs de Boulevard. Merci pour votre accueil excessivement chaleureux encore une fois, puis en espérant qu'on se reparle quelque part au mois de septembre, là, ou dans la suite des choses.
Ben là, t'es là encore jusqu'à la fin de la semaine.
Du côté de week-end, c'est ça.
Ben, tu reviendras faire ton tour si tu veux.
Certainement.
Salut, mais je sais que t'es un homme occupé, puis gars, t'as pas le temps, mais les choses sont faites.
J'ai beaucoup de choses à faire, c'est ça, mais tout est fait, je
Hey, on revient continuer d'écrire au 88-971-1021. Ça entre énormément les gens qui disent les passifs agressifs ou encore les gens qui sont too much tout de suite, tout le temps. Tu sais, quand ça fait deux jours que tu connais la personne, puis là, c'est rendu ta meilleure amie. Moi, je trouve ça étouffant. J'ai continué de nous écrire. La thérapie de groupe a fait du bien aujourd'hui, même si on n'a aucune expertise. Bien, à gang, au moins, on s'est fait du bien. Le point de max d'été, c'est un rappel, mais c'est surtout... avec Audrey Pinchot, parce que malgré tout, elle vient commencer sa saison avec nous depuis lundi. On est très contente de l'accueillir tout de suite après la pause.
Le point de Max. Le point de Max. Boulevard.
Salut! Je trouve que c'est la voix qui est allée avec la trame sonore. Salut tout le monde! Non, mais pour vrai, bienvenue dans le Point de Max. Si vous venez de vous brancher, vous allez entendre Audrey Pinchot dans les prochaines minutes. Oui, elle est là pour l'Open Mic. La saison est bien recommencée. À 24 degrés à l'extérieur et avec le 29 qu'on attend, mais avec le 35 ressenti, il y a des gens qui ont décidé de bombarder... Il y a des gens qui ont décidé de se rendre en grand nombre du coup.
Je pense que ça va être mieux.
Parce que j'allais dire...
Une meilleure formulation.
Avant le quartier. Ouais. Je comprends que tout est dans tout, mais quand même... Hey, c'est plein. Les réseaux routiers sont congestionnés par des gens qui profitent de la belle température, Mathias.
Oui, Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se dirigent vers Valcartier et qui ne bombardent pas Valcartier.
Non, là, c'est pas la base, c'est, non, c'est plutôt ça, c'est le village parc aquatique.
Valcartier, non, mais pour de vrai, c'est complètement bouché là, en direction nord sur le boulevard Valcartier. De Saint-Gabriel de Valcartier, ça remonte jusqu'à boulevard Léo Major. Donc, beaucoup, beaucoup d'attentes. Si jamais vous dirigez vers là en famille, armez-vous de patience. Leur ancienne direction sud aussi, pas mal d'attentes pour rentrer sur Capitale. Henri IV, direction sud à hauteur de Charest, un peu d'attente. Et sur la rive sud, 20 direction ouest, ralentissement qui est surtout entre Chemin des Îles et Président Kennedy, présentement.
Merci beaucoup, Mathias. Puis on viendra avec les nouvelles, entre autres, là, sur cette histoire d'une voiture qui a percuté un gym à Laval. Il y a deux jeunes qui sont décédés en tentant de fuir les policiers. On surveille ça pour vous. Mais d'abord, Audrey Pinchot, salut!
Hello!
Bon mercredi, milieu de la semaine, ensoleillé.
Le nombril.
Ah non, pas ça.
Hey, c'est Katéna. À chaque fois que je le dis, on dirait que j'ai un malaise, mais en même temps, je sais pas, je suis comme... j'haïs pas ça.
Il y a des réflexes comme ça.
C'est
hein?
comme mon péché mignon.
Milieu de semaine, ensoleillé, une des plus belles journées de la semaine. Ça, par contre, ça fait du bien, ça énergise.
Vraiment.
Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on rencontre dans l'open mic?
En fait, aujourd'hui, on rejoint une collaboratrice de l'open mic de longue date avec qui j'aime beaucoup jaser du milieu du travail en général. On a eu la chance d'y parler un peu cet été. Et là, on est comme post-vacances. Ça commence du moins. Il y en a qui sont encore en vacances. Je veux rien vous enlever, profitez-en. Mais des fois, les vacances, les pauses nous mènent à des réflexions. On a envie peut-être de changer d'emploi, de se demander est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je suis bien. Et quand on commence à avoir ces réflexions-là, bien, il y en a des fois qui vont commencer à faire des recherches sur ces internets, à savoir.
À temps perdu. Là, quand tu n'es pas dans le rush de toutes tes tâches, tu as le temps de réfléchir. Ben là, OK, je vais aller voir ce qui pourrait s'offrir à moi.
Oui. Et là, il y a un phénomène quand on commence à faire ça, puis il y a plein de choses à aborder dans ce sujet-là. C'est sûr que les réflexions de carrière, c'est un sujet en soi. T'sais, j'en ai des questions là-dessus, mais il y a des fausses offres d'emploi. Et aujourd'hui, on est dans une époque où il y a beaucoup, beaucoup d'applications qui vont se faire, en fait, sur le web. Tu n'as même pas à aller rencontrer un employeur, un gérant de magasin. Tu vas même faire des fois ton entrevue au complet par le web, en vidéo. Moi, à un moment donné, mon père était passé à travers ce processus-là. C'est vraiment fucké, là.
Surtout pour ton père, d'après moi, tu sais, on est dans une autre génération.
Absolument.
Le contact humain, puis le fait de serrer la main, c'était full important.
Vraiment. Puis lui, il a eu sa carrière, puis il a comme décidé d'entamer une carrière pré-retraite dans les deux dernières années. Fait que là, il cherchait, tu sais, ce qui l'animait. Puis là, tu tombes dans ce grand fouille-là de plein d'offres où des fois, tu en envoies plein, tu ne reçois pas de retour. Puis c'est parce qu'on est dans un univers aussi où il y a des fausses offres d'emploi qui sont mises de l'avant.
Ça, tu me l'apprends. Je me demande à quoi ça sert, une fausse offre d'emploi.
T'as sûrement déjà entendu ça, mettons, dans une entreprise. « Ah, on n'a pas le choix de mettre l'offre en ligne, mais tu sais,
on sait que c'est notre
toi qui... »
Ben
oui, c'est ça.
T'as raison.
C'est tout ça qu'on va démystifier ce matin avec, je pense que je l'ai même pas nommé, Annie Boilard.
Vous à la boulevard, il y a un moment où on prend le temps. Le temps d'écouter, le temps de comprendre. C'est l'Open Mic avec Audrey Pinchot. Un espace pour les vraies histoires, les vraies questions, les vraies émotions. Un rendez-vous incontournable de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Annie Boilard, qui est présidente du réseau Annie RH, on la retrouve. Est-ce que tu as eu une pause cet été, Annie? As-tu eu des vacances? As-tu pu profiter un peu?
Ça s'en vient pour moi. Je suis de ceux qui, les vacances, viendront dans la semaine prochaine.
Ah, ben là, je vais t'en souhaiter des belles. Fait qu'il n'y a pas eu de remise en question de carrière de ton côté. Ça se passe bien.
Pas encore, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup d'employés qui prennent cette période-là pour faire le point sur leur vie professionnelle. Il y en a qui vont conclure, qui sont bien puis qui veulent continuer. Mais comme disait Pascal, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, c'est quoi? Je pense que je vais être attentive aux offres d'emploi pour les prochains mois. Ouais. Je vais regarder ce qu'il y a sur le marché. Je vais voir combien je vaux sur le marché pour d'autres entreprises. Alors, on sait qu'il y a deux périodes dans l'année qui sont propices à cette réflexion-là. La première, c'est le passage à la nouvelle année, c'est les vacances des fêtes.
C'est vrai.
Puis la deuxième, c'est la pause estivale.
Est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus? Puis là, je te lance ça, on n'a même pas parlé, mais à quel point les gens vraiment ont une tendance à vouloir changer de carrière? Est-ce qu'on observe un certain mouvement?
Oui, il y a des chiffres. Il y a des chiffres à la fois sur les fausses offres d'emploi dont tu parlais tantôt. Et il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup moins de processus de recrutement qui se comblent pendant l'été, évidemment. Il y a toujours quelqu'un en vacances. Mais il y a une effervescence des offres d'emploi qui sont affichées à l'automne. Puis on voit aussi le même phénomène au printemps. Est-ce que tu veux que je te donne des chiffres sur les fausses offres d'emploi?
Bien, assurément, parce que c'est la question de base. Est-ce qu'on est capable de différencier une vraie d'une fausse pour les gens qui cherchent un emploi? Puis à quel point c'est fréquent aussi, moi, c'est ce que je me demande.
C'est ça. Alors, comme disait Pascal, une fausse offre d'emploi, c'est une offre d'emploi, t'expliquais, Audrey, c'est une offre d'emploi pour laquelle personne ne sera recruté. Puis on sait au départ, c'est ça qu'on va appeler une fausse offre d'emploi. C'est fréquent. La presse nous disait une offre d'emploi sur 5 au Québec qui est frauduleuse, qui n'est pas réelle. Le journal Les Affaires nous disait une sur 4. Aux États-Unis, c'est 8 recruteurs sur 10 qui confessent avoir déjà utilisé ce stratagème-là. Donc oui, c'est très fréquent, puis les gens le connaissent peu. Puis moi, je soupçonne que ces chiffres, ils sont très minimisés parce qu'on se parle de vraies entreprises qui créent de fausses offres d'emploi, mais on va avoir tout un pan de notre conversation sur des fausses entreprises également qui créent de fausses offres d'emploi.
Comment ça peut être possible, ça, pour les gens qui nous écoutent? C'est dans une entreprise où on sait déjà c'est qui notre prochain candidat, mais pourquoi faut l'afficher si on sait déjà?
C'est obligatoire.
Oui, c'est ça. Là, je vous entends penser, vous vous dites... Au palmarès des mauvaises idées, là, il me semble que celle-là a une place de choix.
Dans le top 3.
C'est ça. Pourquoi l'employeur, il va prendre le temps de rédiger une description de poste, il va payer pour l'afficher sur des postes, des sites, c'est pas gratuit, ça, sachant qu'il va pas recruter quelqu'un. Alors, vous aviez dit tantôt, des fois, c'est des formalités. Je vais vous en donner d'autres des raisons. Puis elles sont pas très nobles, hein, puis ça me permet de réitérer qu'on recommande pas aux entreprises de faire ça, mais... D'abord, la première chose, des fois, c'est nous, les gens en ressources humaines, qui sommes les premiers coupables. Je vous explique. On travaille des fois avec des gestionnaires qui ont tendance à recruter toujours le même profil de personnes. Et dans ces cas-là, nous sommes souvent ceux qui disons, « Sais-tu quoi? Allons sur le marché. Allons voir si on pourrait trouver des talents qui viennent de d'autres patelins. C'est pas toujours les mêmes écoles puis les mêmes quartiers. » Alors, mais on va les mettre dans des fausses offres d'emploi parce qu'on s'entend que, un peu comme pour l'exemple d'Audrey tantôt, la décision est presque prise, là. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de chances que ça bouge puis qu'il y ait des entrevues puis qu'il y ait une opportunité d'emploi. D'autres exemples, une entreprise qui veut se constituer un bassin de CV parce qu'ils ont postulé sur un gros projet, par exemple, ils se disent, ben, si jamais on l'a, il faut qu'on soit prêt à recruter. Mais à moins qu'ils aient le projet, personne ne va être recruté. Des fois, c'est pour aller donner une bonne image. Puis ça, c'est triste. Puis souvent, moi, je vois que ça correspond avec des campagnes publicitaires, des campagnes marketing. Hein, des clics, c'est des clics sur les sites web. Donc, les entreprises vont, pour paraître en croissance solide, elles vont ouvrir plein de postes. Fait que là, les gens vont avoir l'impression qu'elles recrutent. Mais dans les faits, c'est juste un show de boucan, cette affaire-là. Des fois, c'est pour influencer des équipes à l'interne. Tu sais, des équipes fatiguées, la langue par terre. Puis là, la direction arrive, elle dit « Lâchez pas, gang, l'aide s'en vient, on a ouvert des postes. » Mais des fois, il n'y a pas de budget pour ces postes-là. Là.
Hey, je trouve ça jamais insultant. Mais il n'y a pas de loi. Il n'y a personne qui oblige aucune entreprise à mettre ces postes-là. Parce que moi, j'ai déjà entendu ça. Ben oui, mais on n'a pas le choix. Faut qu'on affiche le poste, mais c'est toi qui vas l'avoir. Inquiète-toi pas. Là.
Bon, alors, ça, généralement, ça émane de loi. C'est quelque chose souvent qui est dans un contexte de convention collective. Donc, il y a une démarche qui a été officialisée, mais officieusement, le candidat est déjà choisi. Mais non, les entreprises, elles ont beaucoup de liberté par rapport à ça. Elles peuvent afficher des postes, ne jamais recruter. Ils vont dire qu'elles n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Puis personne, ils n'auront pas de suivi pour ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des candidats derrière ça. Moi, combien de fois je rencontre des gens qui me disent « Annie, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Je vois des belles opportunités d'emploi. Je postule. Je suis candidat parfait pour ça. Puis là, personne ne m'appelle en entrevue. » Puis des fois, il y a des gens qui me disent « Peux-tu m'aider à revoir mon CV? Il y a quelque chose qui cloche. » Puis on regarde tout ça, puis non, il n'y a rien. Rien ne cloche avec eux. Mais c'est parce que leurs yeux sont pas assez affinés pour détecter les vraies des fausses offres d'emploi. Fait que c'est pour ça qu'ils se retrouvent là-dedans. Mais c'est important d'en parler à votre micro pour pas que les gens perdent leur confiance, parce que c'est ça qui découle de ces démarches-là après.
Ça se fait-tu bien détecter une fausse d'une vraie? Parce que moi, vite comme ça, quand tu vas sur les sites, puis il y en a tellement, j'ai comme l'impression que ça vient difficile à un moment donné d'être capable de savoir qu'est-ce qui est une véritable offre d'emploi puis qu'est-ce qui n'en est pas une.
Oui, je réponds à ta question, Audrey, mais puis là, on est toujours dans les vraies entreprises qui créent de fausses offres d'emploi. Il va y avoir d'autres stratégies quand ce n'est même pas des vraies entreprises. Mais quand ce sont des vraies entreprises, moi, ce que je fais moi-même là, pour les gens autour de moi, c'est que je leur dis, un, allez voir où le poste est affiché. S'il n'est affiché que sur le site de l'entreprise, c'est suspicieux parce que c'est gratuit sur le site web de l'entreprise. Habituellement, une entreprise qui veut vraiment recruter, elle veut faire du bruit sur le marché des talents. Elle veut être vue. Donc, elle va afficher à plusieurs endroits. Ça, c'est une idée. La deuxième chose, depuis quand le poste est-il ouvert? Un poste devrait être comblé dans environ 6 semaines, 2 mois max. Ce n'est pas une règle absolue, là. Il y a des experts uniques dans la province, puis ça va prendre plus de temps, mais en général, un poste qui est ouvert depuis plus de 2-3 mois, là, ça sent la banque de candidats dont je parlais tantôt.
OK, fait que ça, c'est louche. Fait que si c'est pas frais comme offre, peut-être passer à côté.
Oui, pas prendre trop de temps pour personnaliser son CV, puis l'autre chose, c'est pour y rêvasser. Des fois, les gens, ils se disent « Hey, mais est-ce que j'applique? » Puis là, le déplacement, ça va se faire comment? Puis ils passent beaucoup d'énergie. Il y a des gens qui vont faire le chemin avant même d'appliquer pour voir si tu réaliste pour moi.
Et moi, je suis de même.
Si c'est vieux, là, allez-y vite, là, parce que ça ne veut pas dire que ça vaut tous ces efforts-là. Je peux peut-être vous donner un dernier truc. Appelez l'entreprise, soit le gestionnaire, les gens de ressources humaines, puis voir, sont-ils capables de vous donner, tu sais, de la chair autour de l'os, là? Parce que si tout ce que les gens font, c'est vous répéter le document que vous avez déjà vu, la description de poste, c'est étrange. Un recrutement, là, ça requiert beaucoup de préparation du point de vue RH. On va avoir fait des grilles d'entrevue, des scénarios. Les gens devraient être capables de répondre à des questions du type « Ça va ressembler quoi mon quotidien dans votre entreprise? » ou « C'est quoi les critères de succès dans ce poste-là? » S'il n'y a rien, là, puis on vous ramasse la même affaire, ça aussi, ça n'inspire pas confiance.
Écoute, je m'en vais un peu champ gauche avec ma question, Annie, là, mais ça peut-tu encore être bon de prendre le temps d'appeler une entreprise pour un vrai poste, là, dans un univers où le poste est vraiment affiché? Tu sais, je disais tantôt d'entrée de jeu que moi, j'en ai eu des proches qui se sont ramassés à devoir faire des entrevues vidéo que jamais ils parlent à personne. Là. Ils rentrent vraiment dans la banque avec l'IA, là, puis les entrevues où il n'y a pas de contact humain du tout. Ça peut être bon encore de dire comme « Hey, salut, moi, mon nom, c'est ça, j'ai vraiment de l'intérêt, parlez-moi-en davantage. » Ça peut-tu te mettre ça à pile des CV, mettons, ou avec la façon dont on fonctionne sur Internet aujourd'hui, ça ne change plus grand-chose?
Bon, Audrey, si je pouvais, je triple soulignerais ce que tu viens de dire parce que c'est tellement important. La réponse, c'est oui. Quand il y a un processus qui est exclusivement virtuel, il y a un moment où je vais vous dire « Parlez à quelqu'un, c'est essentiel. » Puis je vous explique pourquoi, OK? Je reviens en arrière. Puis je vais te dire, Audrey, c'est essentiel. Est-ce que c'est pour remonter son CV sur la pile des CV? Plus ou moins, mais c'est pour se protéger. Regardez bien. Je ne suis pas la seule qui reçoit des offres d'emploi par texto. Okay? Puis si vous n'en avez pas reçu, vos auditeurs, c'est sûr qu'ils vont dire « Audrey, je te vois opiner, c'est ça. » Donc, moi, il y a des jours, là, j'en reçois 3 par jour. Okay? Ça, c'est des offres d'emploi non sollicitées. Puis elles ont en commun d'avoir toujours les 3 choses suivantes. 1, un excellent salaire. 2, 4 à 6 semaines de vacances payées. Et 3, 100% de télétravail. Et ça, cet élément-là, il est important parce que le 100% de télétravail justifie que les entrevues se fassent virtuellement, évidemment. Et là, quand on embarque là-dedans, et là, j'ai une pensée pour ton père, Audrey, c'est que nous, à l'œil nu d'humain, on n'est plus capable de reconnaître si nous parlons à un humain ou à un avatar. L'IA est rendue qui va simuler un humain, puis on pense qu'on a une entrevue avec un humain. Fait que là, regardez bien dans mes stratagèmes de fausses offres d'emploi. J'ai reçu le truc via texto ou de façon non sollicitée. J'ai déposé mon CV. J'ai eu une entrevue avec ce que je pense être un humain, mais je n'ai jamais rencontré personne. Puis là, oh bravo, ça a bien été. Deuxième entrevue, je suis contente. Puis là, vous me voyez arriver. Vous avez été recruté pour le poste. On est super content. Bienvenue. Puis regardez la suite de l'histoire. Nouvel employé, maintenant, on a besoin de vos informations personnelles, de votre adresse. On a besoin de votre numéro d'assurance sociale. C'est passé. Un spécimen de chèque par-dessus ça. Alléluia! Et là, parfois, on vient de donner nos informations personnelles à un pirate informatique.
C'est tellement important là, de le mentionner aujourd'hui. C'est le genre de choses que j'aurais pas vu venir, mais qui est, quand tu en parles, Annie, assez évident, là, puis c'est brillant.
Mais
c'est brillant
comme processus. Mais c'est le bassin gros quand tu y penses. Oui. T'as les fausses qu'on va mettre sur le marché pour bien paraître pour l'entreprise, puis t'as les fausses de fausses entreprises. Là. C'est parce qu'à un moment donné, tu
pour
perds là-dedans. Là, ouais.
Oui.
C'est pour ça. Puis vous faites bien, tu sais, quand vous dites c'est tellement important, Pascal. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué, là. Elle a dit, moi, j'avais une job, là. J'avais une paye dans mon compte de banque à toutes les 2 semaines. J'ai démissionné. Je pensais avoir trouvé un nouvel emploi. Je me suis retrouvée sans emploi, puis mon identité a été usurpée. Fait que, tu sais, Audrey, tu parlais de ton père tantôt. C'est important de réitérer puis de rappeler ça.
Mais oui, mais comment tu t'en sors?
Pour répondre à ta question, il faut parler avec une vraie personne. Puis des fois, dans un effort de sensibilisation auprès des gens, moi, tu sais, je leur dis, avez-vous vérifié que c'est une vraie entreprise? Puis là, la plupart des gens, ils font des gros yeux. Puis là, des fois, on me dit, bon, oui, j'ai vérifié qu'il y avait un site web. Mais là, vous et moi, nous savons, c'est pas suffisant. Moi, j'en ai créé un site web avec l'IA. Ça m'a pris 20 secondes. Ça ne veut pas dire que l'entreprise existe. Il faut valider au répertoire des entreprises, au registraire des entreprises du Québec. Si c'est pas nous, il faut envoyer un vrai humain là, qui va aller cogner une porte, puis valider avec leurs yeux, puis serrer la main d'un humain pour vérifier que c'est sérieux, cette histoire-là, avant de partager nos informations personnelles.
Fait que le truc, c'est l'appel dans tous les cas. Là. Dans tous les cas, t'appelles l'entreprise pour être sûr que tout est beau quand t'es en recherche d'emploi sérieuse.
Moi, j'aime beaucoup cette démarche-là. Puis surtout, plus qu'un appel, parce que l'IA est capable de représenter la voix humaine, là, puis il n'y aura pas d'accent, puis on ne s'en rendra pas compte. Fait que surtout quand on a été recruté avant de donner nos informations personnelles, double et triple validation. Oui, fait que c'est vrai que c'est complexe, ce marché-là des offres d'emploi. Puis je comprends que les gens s'y perdent. Puis je comprends aussi que les gens soient parfois négatifs. Puis ils regardent ça, puis ils disent, « Colin, tu sais, comment tu veux qu'on s'y retrouve? » C'est vrai, c'est complexe. C'est pour ça que c'est important d'en parler.
Puis y a-t-il des secteurs où on le retrouve plus, ça, les fausses offres, en fait? Ouais.
En fait, en termes de secteurs, je vous dirais toute industrie confondue. Oh, il n'y a okay. pas particulièrement. Il y a des secteurs géographiques. Je peux peut-être revenir un petit peu en arrière. Au début de tout ça, tu sais, Pascal, elle disait, « Wow, quand tu le dis, on fait, ben oui, c'est bien évident, mais des fois, on n'y avait pas pensé. » L'alarme, au début, elle a été sonnée aux États-Unis. Et ça, c'était le processus, c'était l'inverse. C'est-à-dire que c'était des vraies entreprises qui affichaient des postes en télétravail. Et c'était de faux candidats, c'est-à-dire l'IA, c'était mu par l'IA, souvent de la Corée du Sud, qui faisaient semblant de postuler sur les postes. Mais évidemment, comme leur CV et leur entrevue étaient constitués pour le poste, ils se démarquaient. Puis là, les entreprises pensaient qu'elles avaient recruté un humain, mais elles avaient recruté un pirate informatique. Puis c'est le même stratagème. Qu'est-ce qui arrive pour l'entreprise quand elle accueille ce nouvel employé? Ben, ça nous fait plaisir. Voici vos mots de passe, voici vos fonctionnements, voici vos codes d'accès. Puis c'était les entreprises qui se faisaient hacker. Aux États-Unis, ils disent que c'est présentement à chaque 4 minutes, il y a une tentative de hacking comme ça avec des faux candidats pour des postes en télétravail.
Mais je pensais pas que c'était aussi gros que ça.
Hey, c'est tellement l'ère moderne. Puis souvent, on va aller en parler dans diverses choses, souvent gouvernementales, dans les projets du type. Mais dans les offres d'emploi, ça paraît futile. C'est capoté. On fait bien en parler, là. En ce moment, je pense que ça va être un problème dans les 5 prochaines années. Puis qui ne sera
mais
pas.
Ça en est déjà un, imagine.
Imagine.
Oui. Moi, Pascal, je pense qu'on parle souvent de consommation locale. Je pense qu'on va parler de recrutement local. Je pense que ça ne sera plus possible de recruter pour des postes en télétravail à temps plein sans, de part et d'autre, l'employé et l'employeur s'être rencontrés. Je pense que ça va privilégier l'emploi plus régional.
On va revenir à la base.
Ben, moi, c'est ça que j'allais dire. On peut-tu recommencer à aller porter notre CV en main propre, à aller serrer la pince au gérant ou au responsable?
Ça s'est perdu, ça.
Ben oui. Ben, puis, tu sais, le pire, c'est que ça fait pas si longtemps que ça s'est perdu parce que moi, je me souviens que dans mes premières jobs, c'était ça. Là. Fallait que j'aie rencontré puis que je rappelle. Avez-vous consulté mon CV? Si je n'ai pas choisi, pourquoi? Puis...
Ça démontrait beaucoup de qualifications aussi. Ben, des fois, surtout si un jeune, il est motivé.
Vouloir,
il est avenant,
absolument.
Il veut, il a une belle prestance, il se présente bien. C'est des choses quand même qui, en entreprise, avec le service à la clientèle, on recherche. Puis que c'est perdu, peut-être parce qu'il y avait trop de postes puis il fallait combler rapidement.
Ça vous est-tu arrivé, 88-971-1021, par hasard, de vous faire prendre par des fausses offres, que ce soit une offre, justement, d'une vraie entreprise et qui n'a pas besoin d'être comblée ou vous faire hacker carrément? Honnêtement, moi, je croise les doigts. C'est sûr que j'ai un même job depuis une couple d'années aussi, mais...
C'est un petit peu dur à la radio, là.
Oui, effectivement. C'est plus un job d'humain à humain, mais je me dis, ça doit être quelque chose de tomber dans ce bassin-là. Annie, si on a des questions pour toi, si les gens ont des conseils à te demander, où est-ce qu'on te rejoint?
Ah, t'es gentil. Donc, réseau-annie.ca, c'est notre site web, puis on peut nous rejoindre pour tous tes projets de consultation en ressources humaines, mais beaucoup formation aussi à ce temps-ci de l'année et conférences.
Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH, c'est toujours un plaisir. Puis là, repose-toi, profite de tes vacances, puis quand tu reviens, on s'en jase.
Avec grand plaisir. Bonne journée à vous deux. À
salut, toi. Bonnes vacances.
Bye-bye, bonnes vacances.
C'était vraiment intéressant, Audrey. Puis elle vient à tout ça dans la réflexion de se dire, hey, voulez-vous changer d'emploi au courant de la prochaine année? T'sais, je pense qu'on peut se faire des fameuses grilles qu'on fait des fois relationnellement si on reste ou pas. Mais le travail, est-ce qu'on reste ou pas? Quels sont mes avantages? Quels sont mes désavantages? Puis des fois, ben, tu vas perdurer quelques années encore parce que tu vas avoir une belle stratégie. que tu vas avoir mise en place, puis tu vas savoir où tu te diriges.
Et moi, c'est surtout le pan si vous décidez de changer d'emploi, d'être prudent. T'sais, c'était l'idée d'Annie de nous parler ça, puis honnêtement, je l'aurais jamais mis de l'avant parce que je pensais pas que c'était un fléau à ce point-là.
Je l'avais même pas imaginé.
Mais moi non plus. Dans ma tête, on n'était pas. Je sais. Puis le pire, c'est qu'on en parle, puis c'est tellement logique. C'est tellement logique.
C'est pour ça que je suis surprise de ne pas l'avoir imaginé.
Non,
ça fait des années qu'on parle avec des experts en cybersécurité, en ci, en ça, puis qu'on est un peu au-devant de la parade parce qu'eux le sont. Donc, ils nous alimentent. Là, la radio, c'est ça, on parle avec plein d'intervenants. Mais ça, c'était une première pour moi. Ouais. Merci beaucoup, Audrey, pour l'open mic. Super intéressant.
Plaisir.
On te retrouve demain, 11h, pour un autre open mic. Mais sinon, dès cet après-midi, dans le retour avec Denis Pivero, ça se passe bien. Grosse semaine.
Ah, c'est le fun de se retrouver. On a du plaisir.
Ben oui, puis les auditeurs sont super contents. Fait que joignez-vous à l'équipe avec Audrey, Véro et Denis plus tard au coup de 14h. Nous, on revient sur le point de max d'été. C'est comme ça qu'on dit ça, hein, Matt?
C'est le nom qu'on a trouvé?
Le point de max d'été. Je viens de voir que c'est écrit là. Fait que...
okay. Mais...
c'est le nom qu'on a trouvé, il reste 3 jours.
Mais c'est parce que c'est ça. Mais tantôt, on faisait un brainstorm avec les auditeurs. Mais c'est parce que Nathan avait choisi le point P. Donc, on trouvait que...
ben, ça peut marcher. Le point PM, le point...
Le point PM, c'est parce qu'on est encore en matinée.
On appelait ça le CV sur
Pascal. Ah, PM, ouais, OK.
Hey, j'essaie, moi, je suis pas bonne là-dedans.
Le point de Max.
Salut Pascal.
Tu prends ta voix qui va avec le Ben.
Ben, faut bien fitter, Pascal.
On est proche de ta voix, par exemple. Oh. Ça, puis Dan Bigra, là, d'après moi, tu fais des annonces de camions dans pas long,
ça s'en vient.
Dodge Ram.
Un gros pick-up. T'es-tu un vrai homme, toi? Ça te prend un gros pick-up.
Bien sûr. Hey, salut! Sous le soleil, la canicule, c'est peut-être ce qui nous affecte. Mais c'est pas une vraie canicule, mais c'est des superbes journées alignées. Puis enfin, on avait besoin de ça à Québec, puis dans nos vies. C'est de la vitamine, pas à peu près. Ce que vous venez d'entendre, c'est Mathias, mais sa voix est pas si loin de ça.
Ben, je te dirais que Pascal, ça fait une méchante belle journée pour baisser la vitre en pick-up.
Hey, notre prochain invité qui est au bout du fil, il va se dire dans quelle espèce de zoo je suis tombée, moi, pour parler d'un sujet super sérieux. Non, mais il y avait de la circulation à faire tantôt, Matt, entre autres. Parce que les gens en profitent. Ils sont sur la route, ils sont peut-être dans leur voiture pris pour monter au parc aquatique dans le coin de Saint-Gabriel-la-Jacques-Cartier.
Bien, si jamais vous êtes sur le boulevard de Valcartier, justement, en direction du village vacances, demandez-vous pas pourquoi c'est à l'arrêt. C'est en raison que vous n'êtes pas tout seul à vouloir aller vous baigner aujourd'hui.
T'as la période des pommes à l'île d'Orléans, t'as la période de la baignade du côté de Valcartier. Puis là, on est beaucoup là-dedans. Aujourd'hui, là, c'est magnifique. Sérieusement, 418-971-1021, vous faites quoi de cette journée ensoleillée? Là, 29, c'est le maximum. Avec l'humidex 35, c'est du soleil bord en bord. Demain, encore plus chaud, encore plus beau. Et ça s'extensionne jusqu'à vendredi, jusqu'à maintenant. Mais j'aime pas le dire d'avance parce que ça change souvent rapidement. Mais si ça pouvait ne pas changer, on serait bien heureux. Et on a du temps à mettre, juste avant d'aller rejoindre notre invité, sur, entre autres, une nouvelle importante. Ça s'est passé du côté de Laval. C'est un peu difficile à imaginer, cette situation-là.
Ces deux jeunes qui sont décédés cette nuit, justement, vers 1h20 du matin. Ce qui s'est passé... c'est que 3 jeunes dans une voiture ont tenté de fuir les policiers. Les policiers, vers 1h20, ont voulu arrêter une voiture qui n'avait pas de plaque d'immatriculation. Le conducteur du véhicule a mis des gaz à fond, puis les policiers ont rapidement arrêté de poursuivre la voiture pour raison de sécurité. On était quand même à Laval, on n'était pas dans une campagne quelconque. Par contre, les jeunes à bord de ce véhicule n'ont pas été trop difficiles à retrouver parce qu'ils ont terminé leur course en heurtant la façade d'un centre de conditionnement physique situé sur le boulevard des Laurentides. On dit que c'est un impact à haute vélocité, évidemment, étant donné qu'on tentait de fuir la police. Les 2 passagers qui ont été amenés vers l'hôpital, une femme de 19 ans qui a succombé à ses blessures, le conducteur qui a également succombé à ses blessures et un autre passager, un jeune homme de 19 ans qui se bat présentement entre la vie et la mort.
Absolument atroce, là. On va suivre ça tout au long de la journée. Toi, on en jase avec Jeff Fortin, puis aussi cet après-midi.
Un homme de 29 ans vient d'être arrêté en lien avec le meurtre de Nicolas Audet à Saint-Isidore en 2022. Ça fait 4 ans, puis pour vous refaire l'histoire rapidement, là, cet homme-là avait été retrouvé mort dans sa demeure. Par la suite, son ex-conjointe et un complice s'était enfui du côté de l'Ontario avec leur enfant de 18 mois à elle et Nicolas, l'homme qui est décédé. Finalement, on avait retrouvé la femme et son complice, Étienne Gourde. C'est finalement cet homme-là qu'on a arrêté aujourd'hui et qui est présentement accusé du meurtre au premier degré de Nicolas Audet. À l'approche de la campagne électorale, on va voir des demandes de différents groupes se poursuivre, se multiplier au cours des prochaines semaines. Et aujourd'hui, on a eu la demande de l'Association des médecins psychiatres du Québec qui demande aux partis politiques de faire de la santé mentale une priorité dans leur plateforme. On parle d'une crise, d'un portrait préoccupant de la santé mentale des Québécois. Selon le regroupement, près d'une personne sur cinq qui souffre présentement d'un trouble de santé mentale chaque année. C'est 20 % des Québécois. Le portail de réclamation pour l'action collective contre l'Agence du revenu du Canada est maintenant ouverte. Cette action collective-là, qui est en raison des nombreux piratages qui ont eu lieu en 2020 pour faire des fausses réclamations de PCU. Donc, c'est au total 47 000 Canadiens qui auront droit à un montant, justement, en lien avec ces fraudes-là. Puis c'est des montants qui peuvent aller de 80 $ jusqu'à 5 000 $, dépendamment de votre situation. Donc, vous pouvez vous informer maintenant sur les différents sites de cette action collective-là pour savoir si vous êtes valide ou non. Et je termine avec la primaire démocrate dans le Michigan qui a eu lieu hier. On a finalement le résultat final. C'est Abdul El-Sayed qui l'a emporté. Puis cette élection-là avait quand même une importance parce qu'on opposait un candidat de l'aile socialiste du Parti démocrate, soit Abdul El-Sayed qui l'a remporté, à une candidate, Elle Stevens, qui était un peu plus avec l'establishment du parti. C'est donc l'aile socialiste qui a réussi à gagner cette partielle-là. Ça montre peut-être un tournant que le Parti démocrate prend présentement du côté des États-Unis.
Et il y a une excellente nouvelle aussi qui était dans l'actualité aujourd'hui du côté de Radio-Canada parce que la province s'apprête à élargir des projets pilotes au départ, mais des projets vitrines à 9 régions. Dans quoi? Dans le soutien à domicile. Enfin, on travaille en amont. Enfin, on parle de quelque chose de productif qui pourrait révolutionner en partie le domaine de la santé, la vieillesse dans une population aussi là, qu'on voit vieillissante. Il faut trouver des solutions, puis pas juste quand on va être rendu à être débordé. On est presque un peu tard pour commencer ces choses-là. Je pense qu'il sera d'accord avec nous. J. Benoît Caron, directeur du réseau de coopération des entreprises en économie sociale et en soutien à domicile. Bon midi dans 20 minutes. Merci d'être avec nous.
Bonjour, ça va bien?
Ça va super bien, surtout quand je lis une nouvelle comme celle-là dans l'actualité, qui est aussi positive que celle-là. On pourrait ajouter jusqu'à 623 000 heures de services à tarif réduit pour aider les gens à avoir un soutien à domicile dans leur vieillesse. Et après un premier essai, ça a été concluant à Alma, Rimouski, Belleuil. Et là, le gouvernement du Québec veut élargir ça pour un total de 9 régions. Si on part à la base du dit projet, au départ, là, ça se manifeste comment? Et comment est-ce qu'on l'implante, pardon?
Ben, en fait, on a vécu l'expérience là, dans 3 régions. C'est suite à beaucoup de travail depuis presque 2 ans où le réseau de coopération des ESSAD, des entreprises d'économie sociale qui sont au nombre de 95 dans la province, revendiquait l'ajout des services d'assistance personnelle et du répit dans le programme d'exonération financière. Le programme existe déjà depuis 1997, mais l'aide financière de ce programme-là n'était disponible que pour les services d'aide domestique. Alors, avec le décret qui est paru ce matin, on ajoute les services d'assistance personnelle et le répit. Quand on a une perte d'autonomie, on commence par avoir besoin d'aide au niveau de l'entretien ménager, au niveau des courses. Mais quand la perte d'autonomie se poursuit, ce qui est généralement le cas quand on vieillit, ben on a également besoin de services d'assistance personnelle au niveau de nos activités de la vie quotidienne, se laver, se coucher, se lever, s'alimenter. Alors, ces services-là n'étaient pas inclus jusqu'à maintenant dans le programme. Ils le seront progressivement au cours de l'automne dans 9 régions. Donc, on aura 42 entreprises qui s'ajouteront, qui auront la possibilité d'offrir des services. mais surtout d'offrir l'aide financière par l'entremise du programme pour consommer ces services-là aux citoyens et citoyennes qui en ont besoin. On parle ici d'ajout de services. On ne remplace pas les services qui sont offerts par le réseau public. On travaille en complémentarité avec le réseau public pour élargir la disponibilité de services auprès d'usagers qui, autrement, n'en auraient peut-être pas eu. Et avec l'aide financière, ben, ça rend les services plus accessibles.
Comment ça se manifeste jusqu'à maintenant là, dans les projets pilotes?
En fait, on a les trois régions là, qui ont été nommées tantôt, Rimouski, Belleuil et Alma. Ça s'est bien passé. C'était naturellement un test à faire. Hein? C'est-à-dire que si le ministère de la Santé et Santé Québec avait décidé de déployer dans trois entreprises pour débuter, c'était pour analyser, pour observer. On s'était préparé depuis l'été 2025. Le déploiement dans ces trois régions-là, dans ces trois entreprises-là, a débuté en janvier 2026. Et bon, force est de constater que quand on observe et on apprécie les résultats de ces trois entreprises-là, ça a convaincu le ministère de la Santé et Santé Québec de faire une autre étape et de déployer dans 42 autres entreprises là dans les 9 régions. Alors, c'est vraiment, ça va contribuer premièrement à faire beaucoup de prévention. Ça va favoriser naturellement l'accès à des services, à des usagers, à des citoyens qui autrement n'en auraient peut-être pas eu, mais ça va aussi donner une aide financière pour que ces services-là soient financièrement accessibles par la plupart des citoyens. Avec l'application de l'aide financière dans le programme, plus le crédit maintien à domicile, pour des personnes de plus de 70 ans, c'est des services qui vont revenir approximativement à 5 $ l'heure.
Wow, OK. Donc, financé par le gouvernement, mais pour les gens qui en bénéficient, ça ne coûte pas trop cher. Les entreprises qui participent au mouvement, donc qui embarquent dans cette façon-là de faire. Ça désengorge aussi plusieurs parties du système de santé, veut pas, même si c'est de l'entretien ou autre. Quelles sont-elles et est-ce qu'elles peuvent postuler pour embarquer dans le mouvement, peu importe la région dans laquelle elles se trouvent?
Ben, ce sont des entreprises d'économie sociale qui ont déjà été reconnues depuis la fin des années 90. Ces entreprises-là existent. Elles ont été voulues par tous les gouvernements qui se sont succédés. Elles ont été, ces entreprises-là, organisées par les communautés, par les citoyens. C'est des entreprises collectives. Donc, les conseils d'administration sont composés d'usagers, de représentants d'usagers ou d'acteurs de l'écosystème du soutien à domicile là, dans chacune des régions. Je dis souvent qu'on a des entreprises de tête à la baleine aux îles de la Madeleine. Donc, on en a partout. On couvre l'ensemble du territoire. Et l'objectif de ces entreprises-là est de livrer des services de la meilleure qualité possible sans avoir un objectif de bénéfice ou de profit. Oui. Alors, ça, c'est un élément qui est important. Les entreprises ont été à ce jour identifiées. Elles auront la confirmation. Et c'est dans 9 régions. Donc, on sait qu'au Québec, il y a 17 régions, je crois. Donc, ça sera qu'en 2027, qu'on assistera, on le souhaite, on fera les représentations nécessaires à une couverture complète du Québec au niveau de l'accès à ces services-là. Ces services-là sont déjà disponibles dans à peu près toutes les régions. C'est l'aide financière qui n'était pas disponible,
présente,
qui maintenant va être disponible dans 42 entreprises qui vont s'ajouter aux trois qui étaient déjà là. Donc, on va avoir 45 entreprises dans 9 régions qui vont offrir, oui, le service, mais surtout vont avoir la capacité d'offrir l'aide financière dans l'ensemble de ces 9 régions-là. Là, à partir du mois de septembre, on pense à un déploiement progressif, un tiers en septembre, un tiers en octobre, un tiers en novembre. Et ça nous amènera, là, en quelque part, au mois de décembre, à avoir 45 des 95 entreprises qui seront autorisées et qui pourront offrir, oui, le service, mais surtout l'aide financière.
Oui, parce que ça fait une différence. Des fois, c'est un luxe pour ces gens-là vieillissant dans leur chaumière là, de se payer des services d'entretien ménager, d'hygiène, de préparation des repas et tout ça quand ce n'est pas demandé par le gouvernement en soi. C'est un peu une politique, si je peux me permettre de le décrire comme ça, du futur. C'est ce qu'on a besoin dans une population qui est vieillissante. On veut des gens qui restent à la maison, mais que ça se passe bien, donc qui ont l'aide qui est reliée à ça. Dites-moi, M. Caron, en terminant, pour la suite des choses avec la santé au Québec, à quel point ça pourrait désengorger le ministère de la Santé?
Ben, en fait, l'objectif, c'est de faire de la prévention. Quand on se rendra chez Mme Bernier pour l'aider à prendre son bain ou à s'alimenter correctement, ben, on retardera probablement son hébergement. On lui permettra de vivre plus heureuse chez elle parce que Mme Bernier veut rester chez elle, mais naturellement, si elle n'a pas de service, elle ne pourra pas le faire. Je donne souvent l'exemple de Mme Bernier qui s'en va prendre son bain toute seule, qui a 89 ans. Alors, elle peut glisser, elle peut se fracturer une hanche. Alors là, on sait que c'est tout un processus qui va s'enclencher, qui va être désagréable pour la personne, mais qui va coûter énormément cher, beaucoup plus cher que les 2 heures de service que madame obtiendra là, dans une ESAD partout au Québec là, dans un an, on l'espère.
Absolument. Ça, c'est important de le dire, puis je pense que c'est le point dans lequel on aurait dû commencer.
C'est pas simplement la livraison des services, c'est qu'on va poser des gestes concrets qui vont contribuer, premièrement, à la concertation avec le réseau public, c'est-à-dire qu'on serre les coudes, là, tout le monde ensemble, pour aider ces gens-là, et ça va améliorer la perception de la perte d'autonomie. On sait qu'au Québec, dans quelques années, là, on a actuellement, c'est 800 000 personnes qui ont plus de 75 ans, donc qui ont un profil qui utilisent particulièrement les services, ces 800 000 personnes-là, dans moins de 10 ans, vont avoir doublé. Donc, la demande qui est présente aujourd'hui va s'accentuer énormément au cours des prochaines années avec le vieillissement de la population et l'élargissement du panier de services dans les ESAD que les gens peuvent consulter là, sur le site Aide chez soi. On peut trouver l'ESAD qui est à proximité de chez nous. Bien, ça va certainement contribuer à favoriser une meilleure continuité dans son appartement ou dans sa maison.
Merci beaucoup, Guy-Benoît Caron, directeur du réseau de coopération des entreprises en économie sociale et en soutien à domicile, d'avoir été avec nous dans le Point de Max.
Ça m'a fait plaisir, madame. Bonne journée.
Une bonne fin de journée. Ouh, madame, on aime ça. Écoute, ça me fait sentir professionnelle. On fait des farces avec ça, mais pour moi, ça, c'est un projet du futur. Les subventions, l'aide gouvernementale qui est apportée à un projet comme ça va faire la grande différence dans notre futur pour que nos aînés aient une décence, aient aussi la dignité de pouvoir venir, s'ils le souhaitent, leur vie à leur domicile, mais avec l'aide qui est souvent celle qui est problématique, en fait. Comme il l'a dit, quelqu'un qui se casse la hanche parce qu'il a voulu prendre son bain, ça ne veut pas dire que cognitivement ou dans les autres affaires de sa journée, il n'est pas capable de vaquer à ses propres occupations. On le sait, on n'est pas une société qui prend soin de nos aînés tant que ça.
Puis on l'a dit souvent au cours des dernières semaines.
Exactement. Puis ça crée des CHSLD remplis, des RPA super chers, des manques aussi à ce niveau-là. Moi, je me demande la popularité de ce projet-là. Là, vas-tu amener un besoin de main-d'œuvre supplémentaire qu'on n'a pas? Moi, je pense que oui. Là, parce que, regarde, on va implanter ce projet pilote-là dès septembre dans le Bas-Saint-Laurent, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montérégie-Est. En octobre, Laval, La Naudière-Laurentide. Novembre, Abitibi, Outaouais, Chaudière-Appalaches. Donc, on est pas mal en région. Là, on n'est pas encore dans les grands centres. Probablement pour que ça se passe mieux.
Faire des tests avant d'implanter tout dans la Capitale-Nationale et dans Montréal.
Puis les organismes sont souvent débordés dans les grands centres. T'sais, ils ont déjà beaucoup d'enjeux. Peut-être qu'on n'avait pas ce genre d'entreprise-là à Québec bien installée et connue pour commencer le projet pilote, mais c'est un budget de 39,3 millions de dollars pour 2026-2027. Puis, tu sais, quand on dit nos taxes, nos impôts, là, moi, je suis bien contente que ça aille là. Quelqu'un qui dit « Je suis femme de ménage, je suis une dame qui est à la maison et qui est maintenant en RPA. La voir chaque mois permet de faire un suivi avec ses enfants qui ne sont pas dans la région. Avec les services d'aide, j'aurais sûrement aidé cette femme-là à rester plus longtemps chez elle. Elle a beaucoup régressé depuis qu'elle est en RPA. Bonne nouvelle avec ce projet-là. » Totalement d'accord avec ça. Moi, je pense que mon grand-père serait peut-être encore en vie, tu sais, avec ce genre de soins-là. À un certain moment donné, je me sens aussi très, très émotive par rapport à ma grand-mère qui a eu un cancer qui a mené à la fin de ses jours. Puis à la toute fin, tu sais, c'était une femme très fière qui disait pas si elle avait besoin ou s'il y avait des tâches que c'était compliqué pour elle. Fait qu'il fallait être au devant, mais des fois, on pouvait en échapper. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas voir.
Ah, ben,
elle
tu ne peux pas faire ça à temps plein non plus.
Une aide à la maison qui connaît très bien comment tu te sens, puis la maladie, puis aurait pu peut-être voir encore plus de choses que nous, on essayait de voir.
Un professionnel.
Exact. Puis l'aider. Je me souviens d'avoir aidé ma grand-mère à aller à la salle de bain, là, puis de voir ses larmes dans ses yeux, parce que pour elle, c'était une honte là, que sa petite-fille la voie semi-nue. Puis moi, je me souviens de dire à ma grand-mère, « Hey, grand-maman, tu m'as changé les couches, là. » Genre, moi, ça me fait plaisir d'être là. Puis elle avait de la misère à parler à la toute fin. C'était vraiment là, dans les derniers jours. Mais peut-être qu'une aide à la maison l'aurait moins gênée. Lui aurait permis de profiter, tu sais, de son bain, profiter
De ses derniers moments.
Oui, de ses toilettes et tout ça. Et non être gênée. parce que c'est une autre génération aussi. Il y avait beaucoup de, comme je disais, de fierté derrière ça.
Je veux dire, c'est une autre génération, oui, mais à un moment aussi, c'est normal d'avoir cette fierté-là en tant que personne. Je pense que quand on va être vieux, on va l'avoir aussi.
Mais oui, tu me dis ça, puis je pense à mon père. Si un jour j'ai à laver mon père, là, ça va être gênant pour lui et moi.
C'est sûr.
Peut-être que ça va l'empêcher d'accepter des soins d'hygiène. Et si on a ces projets-là, ça va aider. Moi, je pense que travailler en amont, c'est la solution. Là,
ah, puis dans beaucoup d'aspects, ouais. Là, on peut dire la même chose, par exemple, de l'itinérance. Quand tu regardes, au final, le coût qu'on va mettre dans une mesure comme celle-là versus le coût qu'on va sauver en logeant cette personne-là en CHSLD, selon moi, tu fais le pour et contre. Cette solution-là est beaucoup plus viable.
Ça, c'est au niveau de la santé physique, par exemple, mais tu sais aussi la santé mentale. Rester aussi à la maison dans ses affaires, c'est beaucoup moins déroutant que d'arriver dans un endroit où tu es avec plein d'inconnus. Pensez-y, là, c'est pas un camp de vacances une semaine, là. C'est le restant de tes jours avec plein d'inconnus, dans une salle à manger avec plein de monde. Ça se peut que pour toi, ce soit pas ton style de vie, mais que tu aies donné à la société toute ta vie, puis c'est ça ta fin de vie, tu sais, quand tu es toute là.
Tu perds un peu ta vie privée, là. En fait, tu perds ta vie privée, j'ai envie de dire. C'est comme. Puis c'est pas des mêmes conditions, là, mais vivre en résidence. Mettons, à l'université, tu viens en résidence. Tu te dis pas « je veux vivre en résidence toute ma vie », mais c'est temporaire.
Puis tu peux pas accueillir qui tu veux quand tu veux. C'est la même chose. Fait que ta famille, elle peut venir à certains moments, pas à d'autres. Tandis que des fois, juste héberger tes enfants dans le temps des fêtes, d'avoir une chambre d'amis, ça fait toute la différence sur ton mode de vie, ton bonheur. Quelqu'un a dit « ma grand-mère paternelle aurait pu bénéficier de ce programme, mais elle est à Gaspé à 91 ans, elle est toute là, elle dit même « full toute là », mais peut plus marcher et l'hôpital qui l'héberge ne lui procure même pas de la physiothérapie. » Donc, elle se demande ce que sa grand-mère fait là, quand elle aurait pu être ailleurs.
Bien, garde, encore une fois, c'est là que tu vois que peut-être qu'on peut essayer de trouver des moyens d'implanter ces choses-là un peu plus rapidement, là, pour que ces personnes-là puissent en bénéficier, parce que là, c'est 9 régions. Après ça, ça va prendre combien de temps fait que les autres régions y aillent accès?
Mais là, déjà, moi, je trouve que c'est positif.
C'est un bon début.
Puis je voulais finir l'émission sur ce sujet-là qui est super positif, puis aussi sur le fait qu'on vous gâte. À la toute fin de l'émission, dans le Point de Max, j'ai une paire de billets à vous donner. Matt va l'octroyer à quelqu'un qui va nous écrire au 88-971-101. Coup de circuit, parce que c'est pour le match des Capitales de Québec le 20 août prochain. Les Capitales de Québec qui seront contre les Miners du comté de Sussex pour le match de Boulevard. On est partenaire avec eux. L'escouade Boulevard va être là, les animateurs sur place et Max Larouche pour le lancer protocolaire. Il se repose en ce moment pour être prêt. C'est deux accès dans la zone Kepler, qu'on prend 3 consommations par personne, le popcorn à volonté, puis assurément le match. Vous allez avoir du fun. Moi, je vous conseille de participer à ce concours-là le 20 août prochain. Les soirées au stade sont toujours magnifiques. Coup de circuit, pourquoi? Ben, pour cette mesure-là qui a été mise en place, puis pour le match.
Donc, au 88-971-1021, coup de circuit, et vous courez la chance de gagner vos billets. Je vais choisir un gagnant parmi les nombreux textos qu'on va recevoir au cours des prochaines minutes.
Merci beaucoup, Mathias, d'avoir passé ces heures-là avec moi.
Ça a été un plaisir.
On remet ça demain, dès 10h, sinon je serai dans l'émission du matin avec Jeff Fortin et Alex Larrain. Mais Jeff Fortin revient à l'instant, tu vas passer l'heure du lunch avec lui. Manquez pas, on en jase, vous êtes à Boulevard 102.1.